Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 31 octobre 2023, le jour d'Halloween, et on enregistre après être allé chasser des bonbons. En train de nous réfugier des attaques de zombies, vampires, les tueurs à tête de clown, c'est ouh, ils font peur. Et autres loups-garous, c'est l'épisode 340. La thématique d'Halloween était également celle retenue par Apple pour présenter sa nouvelle gamme de processeurs, les M3, avec des Mac qui ont été actualisés en conséquence, donc on va vous en parler. Et puis, on fera également le tour des thèmes les plus effrayants du moment sur le fonctionnement de la société à la lumière de la tech. Bien sûr, je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode. C'est l'effrayant docteur Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu?
Le savon fou de base, tu sais, avec les mains dans un cadavre comme ça qui est en train de s'amuser un petit peu.
Tout un programme. Écoute, garde encore les doigts au chaud pour l'instant, le temps que je liste les avantages qu'il y a à nous soutenir sur Patreon, et surtout à dérouler le tapis rouge pour Frédéric Face et Francis Niocho qui ont accepté de nous soutenir. Patreon est une plateforme de financement participatif et vous pouvez évidemment consulter Tech Café, l'écouter en illimité gratuitement. Mais si jamais vous vous dites que ce contenu remplit bien un objectif bien particulier de vous divertir et de vous informer dans un format qui est encore accessible dans votre quotidien, c'est-à-dire dans des temps morts tels que les transports, le sport, le ménage, ou peut-être pendant que vous bercez vos enfants, hein, parfois ils ont du mal à s'endormir, ils sont encore tout petits, vous les bercez, hop, des écouteurs, et vous pouvez vous tenir au courant de l'actu des nouvelles technologies grâce à nous et grâce à Tech Café. Et donc si vous voulez nous soutenir, c'est patreon.com/techcafé, vous aurez toutes les informations nécessaires et vous verrez que vous pouvez y contribuer le montant qui vous paraît le plus juste pour la durée qui vous paraît la plus appropriée. Vous pouvez vous désabonner à tout moment et en échange, petit cadeau, vous avez les épisodes sans la pub, ce qui ne gâche rien. Je voudrais aussi informer les auditeurs et les auditrices qu'on est très très preneurs de vos évaluations sur les apps de podcast. L'enjeu, il est simple. Imaginez-vous que quelqu'un découvre ce qu'est un podcast et découvre Tech Café. Pourquoi est-ce qu'il s'abonnerait? Alors d'une part parce que les épisodes lui plaisent, mais aussi et surtout parce que il aura vu dès le départ que le podcast est largement évalué par beaucoup de monde avec plein de notes à 5 étoiles. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur Apple Podcast, Podcast Addict ou sur Spotify pour dire tout le bien que vous pensez du podcast. Ça permettra à toutes celles qui nous découvrent peut-être d'écouter encore plus facilement un premier épisode. Je cite par exemple BT Vecteur qui nous a écrit un avis depuis la Belgique. Il nous dit « Hello, j'apprécie particulièrement l'aspect fouillé du podcast. Il a bien dit fouillé, hein, et pas fouillis, donc fouillé. Tout en étant passionné, vous gardez une démarche d'analyse critique sur la technologie avec ses tenants et ses aboutissants. L'approche est pédagogique sans pour autant prendre les gens pour des imbéciles. Cela fait plaisir et change des approches superficielles. Merci beaucoup de souligner un peu la vertu pédagogique de Tech Café que vous avez bien, j'imagine, identifié. Je ne peux que vous inviter enfin à commenter sur Tech Café Café.fr dans les commentaires, donc qui accompagne la parution des articles en même temps que les épisodes, et puis à discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord techcafé.fr/Discord. Je voudrais enfin, avant qu'on aborde les news très fraîches, mentionner un retour de Maxime sur Patreon qui a dit très bon épisode. Petite remarque concernant la sortie de la 14e génération des processeurs Intel pour PC de bureau. Ça s'adresse à toi Guillaume, je pense. Ce n'est pas du Meteor Lake, mais un simple refresh de Raptor Lake, d'où les performances décevantes. Comme pour la 11e génération, Intel réserve sa nouvelle architecture au PC portable où l'efficacité énergétique est crucial. Alors je suis pas certain d'avoir bien identifié sur quel point est-ce qu'il précisait ça. Est-ce que c'était une coquille qu'on a pu partager, Guillaume? J'arrivais pas très très bien à identifier.
Alors, c'est tout à fait possible effectivement qu'étant donné qu'ils sont ils sont vendus comme des cores de 14e génération avec la nomenclature 14 et tout. Et il est tout à fait possible que j'ai dit que c'était des Meteor Lake alors qu'en fait ce sont des refresh. C'est bon, le fait que ce soit vendu comme des 14e gènes alors qu'en fait c'est plus ou moins des 13e gènes, c'est pas très malheureusement c'est déjà arrivé, et puis bon ça arrivera sans doute encore, mais effectivement il y a très peu de différence avec les anciens, ça s'explique bien. Mais merci en effectivement tout cas. De le corriger, ouais. Parce que bon, je ne me souviens plus exactement à quel point j'ai dit que c'était une météore, probablement d'ailleurs. Et c'est toujours bien de le mentionner. Ouais.
Et c'est pas moi qui ai relevé, donc merci beaucoup évidemment hein, de nous remonter ces petites précisions, ces petits compléments. C'est aussi ce qui fait la richesse d'un podcast, c'est de savoir, bon bah évidemment qu'on a écouté, c'est la base, mais aussi qu'on peut nous souligner des éléments de compléments. Sans autre forme de procès, on reste dans l'univers d'Halloween, mais c'est un artifice de communication qui a utilisé Apple pour présenter des nouveautés matérielles. Alors il y avait eu quelques petites rumeurs qui sont pour la plupart avérées fausses. Les rumeurs les plus évidentes se sont avérées vraies. J'en dis deux, trois mots, Guillaume, mais je te laisserai évidemment rentrer dans les détails. En gros, Apple a présenté la nouvelle génération de ses processeurs M quelque chose, donc depuis les M1 et les M2. Donc là, il y a maintenant les M3. Petite nouveauté, Apple a présenté l'intégralité de la gamme des M3 d'un coup, donc le M3 tout court, le M3 Pro et le M3 Max, et il a présenté également des Mac qui ont été actualisés, principalement des MacBook Pro et l'iMac, vous savez, hein, cet appareil un peu tout en un qui trône dans votre salon avec son coloris choisi, donc qui sont actualisés aussi avec des M3. Un accent qui a été mis en particulier sur le M3, notamment pour des performances, alors peut-être sur les rendus graphiques avec les jeux vidéo, peut-être que tu vas nous en parler un tout petit peu, Guillaume. Évidemment, plein de petits sujets sur lesquels on va revenir autour, entre les annonces et même qui ont été perçus après les annonces. Guillaume, est-ce que tu fais partie des gens qui, comme moi, bon, moi c'est parce que j'avais du mal à m'endormir quand même, hein, mais on regardait la conférence en live à 1h du matin, entre 1h et 1h30 du matin cette nuit?
Mais bien sûr que non.
J'en attendais pas moins.
Non, moi je dormais probablement à cette heure-là, plus ou moins, et c'est vrai que j'ai pas regardé le truc, hein. J'ai lu les news dessus comme tout le monde ce matin. Bon, j'ai bien fait de dormir quand même parce que bon, scary fast, c'est effroyablement rapide. Oui, bon, enfin, c'était vraiment parce que ça tombait pour Halloween, parce que c'était quand même.
C'était parce que ça durait 30 minutes. C'est pour ça, c'était effroyablement rapide.
Non,
je pense pas. Mais ça durait que 30 minutes.
Mais c'est vrai que ça a été relativement court. Bon, après, voilà, c'est des annonces relativement pépères, effectivement, dans le sens où c'est une mise à jour bien, quoi, mais bon, voilà, enfin, pas non plus, tu vois. Bon, Apple a annoncé comment s'y attendait, effectivement, c'est M3. Et des mises à jour conjointes de ces Mac Pro et iMac, hein, et puis ben voilà, c'est tout. Donc désolé, pas de Vision Pro, rien de super original finalement, une keynote de mise à jour, voilà, incrémentale. Donc les machines elles-mêmes ont un look d'ailleurs qui est très proche, hein, des anciennes, et globalement il n'y a rien de très surprenant. Alors les M3 sont quand même intéressants, il n'y a quand même rien d'effrayant, on va dire. Les M3 sont des déclinaisons ordinateurs en fait, hein, des A17, donc ils sont gravés par TSMC en 3 nanomètres, voilà, dans leur super usine de top niveau, et ça permet toujours effectivement de monter un petit peu la densité ou la fréquence, ou un peu les deux, hein, pour les processeurs, pour grappiller des performances par rapport à la génération d'avant, bien sûr. Donc il y a toujours, c'est pareil, il y a les M3 et les M3 tout court, les M3 Max, les M3 Pro, c'est toujours des SoC, avec GPU plus RAM soudés dessus et NPU. Et donc, il y a toujours des cœurs performance et des cœurs économiques. Et la répartition change un petit peu. Donc, côté CPU, les gains de perf sont assez modestes, tout compte fait. Alors, je dis tout compte fait, pourquoi? Parce qu'Apple annonce qu'un cœur performance de 30% fait 30% de mieux. Un cœur performance du M3 fait 30% de mieux qu'un cœur performance du M1. Alors, c'est bien, mais bon, le M2 est quand même au milieu, quoi. L'an dernier, c'était aussi dans les... dans les 10 à 20% entre le M1 et le M2. Donc ça veut dire qu'entre le M2 et le M3, on est plutôt dans les, je sais pas, 15% de différence, quoi. Donc bon, voilà, c'est bien, mais enfin, c'est à peu près normal, quoi, on va dire.
C'est une itération logique compte tenu de l'évolution technologique, etc., et de la recherche.
Ouais. Oui, c'est ça. Donc pour les cœurs économes, c'est un peu la même chose. Apple annonce 35% de mieux que le M1, toujours. Mais bon, là encore, si on compare au M2, hein, le M2, c'était dans les 15 à 20% meilleur dans ce domaine que le M1. Donc l'écart de performance, finalement, cœur pour cœur, si tu veux, entre le M2 et le M3, il n'est pas monstrueux, quoi. Hein, c'est dans les 15 à 20% max. Donc c'est assez cohérent, de toute façon, avec le passage de 3 nanomètres, hein, qui aide bien, mais qui ne fait pas non plus de miracle, quoi. Le M3 peut avoir jusqu'à donc 8 cœurs, en 4 performances et 4 économiques, 24 gigaoctets de RAM. Le M3 Pro, lui, il fait une proposition qui est assez originale, puisque son nombre de cœurs maximum baisse par rapport à la génération d'avant. Il permet même 2 cœurs performance qu'il troque contre 2 cœurs économiques. Donc au lieu de la configuration qui est en 8 plus 4 des M2 Pro, on a du 6 plus 6, ce qui est assez étonnant. Mm-hmm. Ça ne doit pas vraiment aider les perfs, mais bon, voilà. Le Pro, par contre, plafonne maintenant à 36 gigaoctets de RAM, alors que c'était 32 pour le M2 Pro. Le M3 Max, à l'inverse, par contre, voit son nombre de cœurs augmenter, puisqu'on peut passer jusqu'à 12 plus 4. Donc sa RAM maximum est de 128 gigaoctets, hein, contre 96 avant. Donc là, voilà, il y a une véritable évolution. Côté GPU, il y a des nouveautés aussi. Hein. Bon, il y en a une qui vient du A17, c'est le Ray Tracing, hein, tout le monde s'y attendait. Mm-hmm. Tous les M3 proposent des GPU avec Ray Tracing désormais, donc c'est pas mal. On trouve aussi une fonction moderne comme le Mesh Shading qui manquait. Alors le Mesh Shading, c'est vrai que c'est relativement récent, c'est apparu dans les cartes de GTI, enfin dans les GTX de série 1000, donc les 1080, ce genre de truc, chez Nvidia, et dans les RDNA2 chez AMD. Donc c'est une autre manière en fait de gérer la géométrie. En général, bon voilà, pas mal d'auditeurs le savent, on rend une image en utilisant des shaders, donc ces shaders ils vont s'appliquer d'une part sur la géométrie, donc sur les sommets des triangles, d'autre part sur les pixels. Donc on a des vertex shaders, c'est-à-dire ceux qui font les calculs sur les triangles, un vertex à la fois, c'est-à-dire un point du triangle, une extrémité du triangle à la fois. Et en fait, tout ça, ça se fait forcément voilà, sur chaque objet, un vertex à la fois, et ça se fait même si le triangle n'est pas visible d'ailleurs. Donc il faudra, une fois qu'on rentre dans le vertex shader, effectivement, éventuellement, on peut le virer parce qu'on ne le voit pas, mais on doit de toute façon exécuter voilà, les vertex shaders. Le mesh shader, finalement, c'est une évolution du vertex shader, c'est-à-dire que ça permet de regrouper, disons, des parties d'objets, ou des objets entiers, en tout cas, ça permet de regrouper des blocs de triangles, donc ce qu'on appelle parfois des meshlets, c'est-à-dire des petits bouts d'objets. Donc tous ces maillages, effectivement, qu'on regroupe, ensuite on fait des calculs dessus de manière très très flexible et par bloc. Ça ressemble à des compute shaders, et ça permet en fait une gestion beaucoup plus efficace de la géométrie, et ça permet potentiellement d'envoyer, de faire plus de calculs à la fois, et d'envoyer aussi plus de détails à l'écran. Et en ce moment, c'est Alan Wake 2 qui est une véritable démo pour cette technologie, hein, parce qu'il a un niveau de détails géométriques très élevé. C'est-à-dire, en gros, les jeux vidéo, souvent, ils ont des textures qui sont très très évoluées, et parfois ils utilisent des petits trucs pour que ces textures paraissent encore plus complexes, hein, le parallax shading, etc., qui sont des effets de bump mapping, mais plus évolués. Mais finalement, si on regarde bien la géométrie, il n'y a pas énormément de triangles encore. Même dans un jeu moderne, il n'y a pas énormément de triangles. Et c'est à cause aussi du goulet d'étranglement des vertex shaders qui n'est pas extrêmement optimisé pour ça. Et Alan Wake 2, lui, à l'inverse, il envoie beaucoup, beaucoup plus de géométrie que la moyenne, ce qui donne d'ailleurs un look vraiment particulier au jeu et voilà, qui en fait quand même une vitrine, quoi, une vitrine technologique. Et donc c'est un des premiers jeux à faire usage de ça, parce que voilà, ça date de la série 1000, mais ça a été adopté beaucoup plus lentement que le Ray Tracing, tout simplement parce que le Ray Tracing, ça se voit directement. Alors que le Mesh Shader, bon ben, quelque part, si on n'a pas vraiment besoin, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de pousser de plus de géométrie, c'est un peu différent. Et puis les consoles de jeux aussi, ben, les PS4, elles ne supportent pas ce genre de truc. Par contre, les PlayStation 5 et l'Xbox Series, si. Donc ça va commencer à se développer, donc ça fait partie un petit peu de cette espèce de tronc commun technique qui va être intéressant parce que les développeurs vont pouvoir l'utiliser un petit peu partout, quoi. Donc le GPU des M3 propose aussi l'encodage de la V1 d'ailleurs, et puis ce qu'ils appellent le Dynamic Caching, dont le rôle n'est pas si évident que ça finalement, mais bon...
J'ai pas compris moi, c'est quoi ça?
Ils disent que ça concerne l'optimisation de l'utilisation de la mémoire, donc ça veut dire probablement que... comme la mémoire est partagée entre l'OS, le système, donc, et le logiciel, et le jeu lui-même, et tout, et les shaders, les textures, etc., bah, parfois, on est un petit peu à l'étroit, donc j'ai l'impression qu'il est capable de gérer un petit peu mieux ça, mais honnêtement, ils n'ont pas donné de détails vraiment techniques, je ne sais pas exactement ce que ça fait précisément. On reviendra dessus, j'ai jamais un jour, je vois passer des explications un petit peu plus cohérentes là-dessus. Et donc finalement, bah, le M3 au niveau graphique continue de se mettre à jour, hein, par rapport à la concurrence, hein, ce qui est plutôt bien, parce que du coup, désormais, bah, toutes les cartes graphiques du marché, que ce soit AMD, Nvidia, Intel ou Apple, proposent le Ray Tracing et le Mesh Shading, par exemple, hein, ce qui est toujours cool. Et donc voilà, on a vraiment une base assez, assez solide sur laquelle les devs pourront se baser. Les consoles de jeux aussi supportent ça, donc c'est bien, parce que voilà, ça peut, au moins comme ça, on sait qu'on a ça disponible partout, quoi.
Les présentations des appareils aux journalistes à New York étaient systématiquement accompagnées d'une DualSense, a été cité durant la vidéo, un extrait Baldur's Gate 3. Il y a Lies of P et Stray aussi qui sont présentés là dans les appareils à New York. Et a priori, de l'aveu des gens qui constataient là comment ça fonctionnait, ça avait l'air d'être extrêmement beau, que ça rendait très bien, évidemment très fluide. Est-ce que tu penses, compte tenu de tout ce que tu précises et compte tenu de l'annonce qui avait déjà été faite de la part d'Apple, d'avoir un dimensionnement de macOS qui est adapté au jeu, c'est-à-dire qui fait baisser un peu tous les autres processus pour continuer à bien faire tourner au mieux possible les jeux, est-ce que tu penses que là, il y a un terrain de jeu favorable pour Apple, pour le monde du jeu vidéo? Est-ce qu'il peut tirer son épingle du jeu? Ou est-ce qu'encore une fois, comme toutes ces dernières années, ça va dans le bon sens, mais ça ne changera fondamentalement pas la donne? C'est compliqué parce que je te demande un petit peu de regarder dans ta boule de cristal, mais enfin, tu dois avoir une impression, toi, par rapport à ça.
Bah, oui, enfin, l'impression, c'est qu'effectivement, ils ont quand même mis l'accent sur le jeu. Il y avait Kojima aussi qui a fait une apparition, il me semble.
C'était à la précédente présentation, me semble-t-il, pour la rentrée de la conférence de l'iPhone.
Si tu veux, ils essaient. Voilà, enfin, ils sortent Kojima parce qu'ils ont envie, effectivement, que les Mac servent aussi à jouer. Techniquement, c'est tout à fait possible, hein. Y a pas trop de soucis. Alors évidemment, hein, ça dépend de quel M2 ou M3 on parle, parce que les M3 de base, ils sont pas... Enfin, si t'achètes une machine de base avec un M3 et 8Go de RAM, tu vas avoir un jeu qui va être globalement niveau PlayStation 4, mais pas plus, hein. Okay. Parce qu'il n'y a pas assez de mémoire, et puis voilà.
C'est bien d'avoir un point de repère comme
Si tu passes évidemment aux versions Pro Max, oui, là, c'est différent. Là, tu peux avoir des jeux qui sont de très très bonne qualité et qui peuvent être tout à fait tenir la dragée haute à des PlayStation 5, tu vois, il n'y a pas de souci.
Encore faut-il que les développeurs offrent la mise à disposition de leurs jeux sur macOS.
Absolument, il faut qu'ils développent, et du coup, ça va dépendre effectivement de à quel point c'est facile de développer pour Apple. Parce que les développeurs, ils doivent, enfin, si tu veux faire un jeu multiplateforme aujourd'hui, t'as DirectX 12 si tu veux viser PC Xbox. Après, sur PlayStation 5, c'est une version de Linux, donc tu dois avoir, ils ont leur propre SDK. Et puis après, sur Apple, c'est Metal. Donc, du coup, c'est quand même encore un peu différent. Je sais pas exactement à quel point c'est facile, mais ça peut se faire et ça marche très bien. Oui, Baldur's Gate 3, qui est une version Mac, fonctionne parfaitement bien dessus, hein, donc il y a pas de souci d'un point de vue technique. Après, c'est aussi, faut voir aussi comment les Macs sont perçus. Pour l'instant, ils sont vraiment perçus, j'ai l'impression, comme des machines plutôt de boulot, je sais pas s'ils sont vraiment perçus comme des machines de jeu. Pour l'instant. Ça peut changer progressivement. Hein. Donc oui, de toute façon, ils améliorent, à chaque génération, ils améliorent leur GPU. Là, celle des M3 serait 65% plus performante que celle des M1. Bon, alors évidemment, toujours pareil. Hein. Cette idée, c'est complètement idiote de comparer avec deux générations avant. Je veux dire, comparer au M2. Quoi, tu vois. Donc si tu compares au M2, le M2, on avait dans les 25 à 30% de hausse par rapport au M1 déjà. Donc pour un très gros, au doigt mouillé, hein, voilà, les hausses de performance entre M2 et M3, c'est à peu près ce qu'on a vu entre M1 et M2. Donc on peut tabler grosso modo sur 15-20% sur le CPU, 30% pour le GPU. Ce qui est déjà bien, attention, hein, je ne dis pas que c'est mal, hein, mais c'est à peu près ça. Donc le M3, c'est une mise à jour, donc qui est pas effrayante du tout, mais qui est sympa. Le M3 Max, c'est impressionnant quand même, parce que c'est quand même 16 cœurs, 40 cœurs GPU, 92 milliards de transistors, donc c'est quand même encore bien plus que les 67 milliards de transistors du M2 Max, donc c'est quand même une puce vraiment énorme, quoi. Celle-là, pour le coup, c'est... j'imagine pas le prix, mais c'est vrai qu'elle est très 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 puissante. Ce qui est un peu étonnant dans ce truc-là, c'est le M3 Pro, parce que lui, c'est une sorte de mystère, puisque lui, il perd des cœurs performance quand même, c'est quand même un petit peu dommage, et il a même moins de transistors. Le M3 Pro a moins de transistors que le M2 Pro, il perd 3 milliards de transistors, il a 37 milliards. Alors ça fait pas forcément une différence énorme, mais c'est quand même pas habituel, quoi. Donc faudra voir les tests sur pièce un petit peu pour voir ce que ça donne. À noter qu'ils ont donc présenté, comme t'as dit, l'essentiel de la gamme, mais on n'a pas vu le M3 Ultra encore. Donc ça sera pour un peu plus tard sans doute.
Il y a le M3 Max dispo dans le MacBook Pro 14 pouces qui arrive à 4000 euros. Voilà, ça c'est le prix, on va dire, d'entrée de gamme d'un MacBook Pro 14 pouces avec un M3 Max. Ça donne un petit peu déjà une idée. Ça crée quand même des petits comportements un peu bizarres, je trouve, pour les effets de gamme. En fait, Apple a quand même comparé pas mal de performances des M3. Alors, évidemment, avec les M1, mais aussi avec les M2, ce qui est assez curieux, parce qu'en fait, les M2, c'est quand même des processeurs qui sont sortis en début d'année. J'ai le sentiment qu'il y a quelque part une forme d'accélération, même si dans les faits, je pense que ça se vérifie pas forcément. J'ai l'impression qu'il y a en tout cas un rythme qui est en train de s'opérer. Ça crée aussi une bizarrerie qui sera forcément corrigée, mais si ça se confirme, d'avoir un Apple Vision Pro qui avait été présenté avec un M2, bon, bah là, on imagine que soit il va sortir avec du M3, soit il sortira avec une puce M2 parce que ça suffit, mais on a du mal à penser que le processeur pour un Apple Vision Pro en 2024 sera un processeur d'une génération précédente aux iMac et aux MacBook Pro.
Moi, je pense que ce sera un A18 ou un A19, en fait. Hein.
Ah oui, d'accord, ok. Sur la restitution finale. Bon, tout cas, M2, ça permettait de positionner le curseur, effectivement, parce que c'est un appareil portable. Autre bizarrerie, quand même, avant que je te laisse continuer, mais je crois que tu avais peut-être prévu d'en parler, c'est il faut quand même qu'on le mentionne, hein, c'est qu'Apple se fait fort de présenter des appareils maintenant USB-C, notamment les derniers iPhone respectent le cadre légal qui est imposé par l'Union européenne, entre autres, et donc les iPhone 15 sont USB-C. Mais voilà, Apple nous a présenté des iMac qui vont être livrés avec un Magic Keyboard et une souris, une Magic Mouse, qui sont tous les deux des appareils qui sont compatibles Lightning uniquement. Alors, il va falloir les brancher avec un câble Lightning. C'est quand même une bizarrerie inattendue, ça, Guillaume, non ?
Oui, c'est d'autant plus bizarre que la gamme Mac a passé à l'USB-C dès 2015, en fait.
Exactement.
C'était vraiment avant bizarre. Honnêtement, je suis pas dans le secret des dieux. Il doit y avoir des trucs logistiques ou j'en sais rien. La Magic Mouse, effectivement, ne change toujours pas. Elle se recharge toujours pareil avec son câble Lightning. Oui, c'est bizarre. Bon, après, peut-être que ce sera pour l'année prochaine, ou peut-être juste qu'ils s'en foutent complètement, je sais pas. Franchement, je
absolument,
sais pas.
Absolument, ouais, c'est possible. Ouais, peut-être qu'ils tordent le truc jusqu'au bout, parce qu'à mon avis, ils ont des chaînes logistiques. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la chaîne logistique, d'ailleurs, ne s'est pas imposée à tout leur Mac. Par exemple, le Mac Studio et pas M3 pour l'instant. Bon, j'imagine que ça se fait pas en claquant des doigts de changer toute une gamme de Mac pour une entreprise comme Apple, même si t'es Apple. Dernière chose, peut-être sur cette présentation, Guillaume, il y a une signature qui a fait parler d'elle et qui fait son petit effet vraiment en matière de communication, hein, plus qu'en matière de démonstration technologique. Quoique, la petite signature, à la fin de la vidéo, cet événement a été filmé sur iPhone et édité sur un Mac. C'est la première fois que ça arrive. Il faut reconnaître que les images sont très belles, sans être complètement époustouflantes et bluffantes. Et quand on revoit les images, notamment dans des environnements très sombres, bon, il n'y a pas de miracle. Pour autant, ça a été filmé sur des iPhone 15 Pro, a priori. Alors, c'est pas des iPhone 15 Pro qui ont été tenus à bout de bras par des opérateurs, mais c'est évidemment toute une grosse machinerie, la même d'ailleurs qui tient les caméras et les réflexes habituellement pour filmer, donc il ne faut pas se leurrer. Pour autant, j'ai trouvé ça très malin de leur part de souligner le fait que, avec des conditions d'éclairage et techniques qui sont les mêmes, si tu remplaces un réflexe par un iPhone, tu arrives à avoir des résultats tout à fait convaincants et tout à fait bluffants pour une marque comme Apple. Ça, c'était le petit coup de pouce en matière de communication. Ils parlent des Macs, hein, mais on est début novembre et ils savent très très bien qu'en ligne de mire, il y a les iPhones qu'il va falloir vendre par palette entière. On se fait pas trop d'inquiétude. Dernier mot aussi, et je pense qu'on va pas trop s'attarder non plus là-dessus.
Passer au Mac peut-être, hein, on va parler.
Alors, vas-y. Allons quand même, parlons des Macs. T'as raison, on n'a pas assez détaillé les matériels.
Qu'est-ce que tu veux? Il a présenté ses processeurs Apple, bon, donc bien entendu, des machines aussi pour les mettre dedans. Donc des Mac Pro et des iMac. Bon, c'est vrai que voilà, c'est le retour des iMac, bon, qui avait été privé de M2. Il n'y a pas des masses de trucs à en dire non plus, parce qu'ils sont quand même très semblables, mis à part la mise à jour avec les M3, hein, donc là, il y a plusieurs couleurs, tout ça. Bon, après, voilà, les écrans, c'est pareil. Donc, ils sont vraiment très, très semblables. Ils démarrent à $1,300 pour un M3 de base, donc 8 cœurs, hein, 4 plus 4. 256 Go de SSD, 8 Go de RAM, ce qui est quand même un peu indigent pour le prix, il faut quand même le dire, 2 300 $, 8 gigas. Mmh. Bon. Apple continue à être super radin là-dessus quand même. Hein. Pour 1300 balles, tu proposes pas en 2023 une machine avec 8 gigas de RAM, surtout que c'est de la RAM partagée. Il se partage avec le GPU. Bon, je le dis à chaque fois, hein, je pense, mais bon, tu proposes une GPU pas dégueulasse en plus. Hein. Donc, tu veux pousser à des gens qui jouent à des jeux dessus, quoi, tu vois. Mais bon, bah, dans les 8 gigas, il faut mettre le jeu, l'OS, les textures, les objets, le logiciel, tout ça. Ça peut coincer assez vite, et pour 1300 balles, franchement, c'est quand même assez chiche. Bon, c'est exactement la même chose avec les MacBooks, hein. D'ailleurs, les MacBook Pro, c'est même pire, puisque d'ailleurs, Apple ne propose plus de MacBook 13 pouces, parce que l'entrée de gamme, du coup, désormais, c'est un MacBook à 14 pouces, qui est à 1 600 $ et à 2 000 € en France. Alors oui, il est plus haut de gamme que l'ancienne 13 pouces, voilà, commencé par son écran sans verre et tout, mais enfin quand même, du coup, l'entrée de gamme en MacBook Pro, c'est une machine à 1 600 $ au lieu d'une machine à 1 300 $, donc on fait quand même un petit bump, pas, et qui a toujours 8 gigaoctets de RAM et 256 gigaoctets de SSD. Donc c'est un sentiment étrange, hein, parce que ce 14 pouces, il est moins cher que l'ancien 14 pouces, mais du coup, en tant que ticket d'entrée de gamme, lui, il est plus cher qu'auparavant. Et en France, comment dire, donc il sera disponible à partir du 7 novembre, hein, mais on sait déjà que c'est 2 000 balles le ticket d'entrée, quoi. Donc 2000 balles avec 8 gigaoctets de RAM, c'est un petit peu une blague quand même. Mais bon, passons, les MacBooks sont toujours, enfin, ils passent tous en M3, bien entendu, hein, et ils perdent aussi le Touch Bar. Donc il n'y a plus aucun MacBook qui a le Touch Bar, donc voilà, c'est une zone tactile qui n'a jamais eu un succès fou, j'ai l'impression. Donc voilà, plus de Touch Bar, je ne sais pas si elle va te manquer.
Alors ça fait longtemps que je n'utilise plus d'appareil qui a une touch bar. Moi j'aimais bien, de là à dire que c'était un argument de vente et quelque chose de particulièrement convaincant, non, hein, on va pas se mentir, ça a jamais prouvé ses usages, et si Apple le retire, c'est pas forcément pour créer de la frustration, mais c'est bien parce qu'ils ont dû constater que dans les expériences utilisateurs, c'était pas suffisamment convaincant, effectivement. Est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, peut-être dernière question, Guillaume, mais c'est évidemment à la fois rhétorique et dans la continuité de nos précédents échanges. Que pense Mère Nature de l'arrivée d'une nouvelle génération de processeurs là en 2023, alors que finalement les M1 de gamme un peu évoluée, ils sont pas si vieux que ça. Bon, c'est facile, hein, de critiquer, et après tout, personne force à renouveler tous les ans parce qu'il y a une nouvelle génération.
Bah, c'est plutôt les M2, bon. Hein, effectivement, hein, puisque les M2, c'était des refresh qui étaient...
Oui, les M2, pardon.
Oui, les M2, parce que finalement, oui, qu'est-ce que tu veux dire? Tout le monde, tous les constructeurs font des processeurs tous les ans. Alors, bien, pas bien, bon, ils font tout ça. Donc, on ne peut pas reprocher à Apple de le faire aussi s'il le fait. Ce qui a été un petit peu bizarre, c'est ces M2, finalement, qui sont un petit peu entre deux, quelque part. Un petit peu intermédiaire, donc ils ont apporté un petit peu plus de performance, mais enfin pas des masses, et en réalité si on était passé directement du M1 au M3, on aurait eu un différentiel un petit peu plus spectaculaire. Et est-ce que ça aurait été plus mal? Est-ce que les gens auraient pas pu vivre avec des M1, des M1 Pro jusqu'à aujourd'hui? Probablement que si. Donc en fait c'est plutôt les M2 qui sont un peu bizarrement sortis de manière un petit peu bizarre, j'ai l'impression.
Effectivement. Bon, écoute, mettons de côté ces appareils Apple actualisés, à moins que j'ai oublié quelque chose ou que tu veuilles souligner un dernier truc.
Non,
sur...
Je pense pas.
Eh bien, écoute, on va mettre de côté les produits à la pomme et on va parler de toute notre société, hein, qui continue d'être particulièrement effrayante par plein d'aspects. Mais regardons-la uniquement avec la fenêtre qui nous intéresse, celle de la technologie, avec Meta, qui avait aussi l'objet du gros de l'actualité de ces derniers jours, notamment avec un procès qui commence aux États-Unis, enfin c'est une plainte, hein, qui s'initie aux États-Unis. De 41 États et qui est destiné à Meta pour la manière dont il gère l'addiction à Facebook et Instagram, Guillaume.
Eh oui, l'Amérique a peur, ses enfants deviennent fous. Et c'est la faute aux réseaux sociaux et à Meta en particulier. Alors c'est peut-être un peu vrai, il y a des études qui vont dans les deux sens en fait. On se souvient même d'études internes, hein, qui avaient fuité grâce à Frances Huggins. Sur la nocivité d'Instagram pour les jeunes filles en particulier, la lanceuse d'alerte avait pas mal d'arguments quand elle avait témoigné devant le Congrès sur le fait que Facebook, à l'époque, dans son ensemble, hein, pour l'ensemble de son œuvre, était plus intéressé par sa croissance que par quoi que ce soit d'autre. Hein. Tout est bon pour l'engagement, voilà, c'est tout est bon. Alors tout ça, c'était en 2021, donc ça fait déjà 2 ans, et on peut voir la grosse vague de procédures qui va toucher Meta dans les prochaines semaines, hein, comme une continuation de ça. Donc tu l'as dit, 41 procureurs généraux d'autant d'États américains vont attaquer Meta en justice pour avoir délibérément créé des produits qui exploitent la vulnérabilité du jeune public, pour son propre profit, bien sûr. Alors, par ailleurs, Meta est aussi accusé d'être, encore une fois pour l'ensemble de son œuvre, une charge supplémentaire, un fardeau même pour le système scolaire et le système de santé, puisqu'il dégraderait la santé mentale des jeunes. Une conclusion qui est appuyée par des recherches qui montrent qu'une heure par jour de réseaux sociaux suffit pour provoquer une baisse sensible de l'estime de soi et du bonheur et une hausse de symptômes dépressifs. Bon, il y a aussi des études, voire des méta-études, qui trouvent pas forcément de lien de cause à effet, et l'association des psys américains note que les réseaux sont en eux-mêmes ni bons ni mauvais, je cite. Une conclusion de Normand, du coup, qui ne convainc pas des masses les procureurs. Donc c'est un sujet complexe, le diable est dans les détails, alors c'est sûr que tout dépend de l'usage qu'on en a, hein, voilà, de notre attitude vis-à-vis de ça, de tout ce qui est en ligne, et de l'éducation aussi, puis de l'accompagnement des enfants, bien sûr. Bon, c'est pas le sujet ici, et heureusement pour moi, les attaques contre Facebook seront étayées, c'est certain, et la défense le sera aussi, donc voilà, ça sera un gros procès. Moi, ce qui m'amuse un petit peu dans l'argumentaire des plaignants, donc les procureurs généraux, là, c'est qu'ils pointent aussi du doigt toutes les dark patterns, toutes ces magnifiques trouvailles de marketing cognitif hein, qui sont mises en œuvre par les réseaux sociaux, qui sont bien connues hein, et décrites même en détail hein, par des repentis,
le scroll infini,
de la Silicon Valley,
le compte refresh, voilà. Les notifs.
Exactement, ouais. Bien entendu. On avait déjà mentionné, bien sûr, Tristan Harris, l'ex de Google, mm-hmm. qui en parlait, qui a même fondé une association là-dessus. Il y a aussi Shamat Palihapitiya, qui est un ancien cadre de Facebook et qui estime que les likes sont une calamité pour nos sociétés. Et oui, c'est exactement ça. Comme tu dis, les scrolls infinis, c'est une horreur pour l'addiction. Les notifications, les pastilles sur les icônes qui t'encouragent à ouvrir l'appli tout le temps, vous en connaissez des dizaines. C'est des caractéristiques qui sont même devenues universelles aujourd'hui, bien au-delà de Facebook, évidemment. Et même jusqu'au mouvement anodin, de faire un swipe vers le bas, voilà, pour rafraîchir. C'est ce mouvement-là qui est complètement naturel aujourd'hui. En fait, il est inspiré du mouvement qu'on fait sur le levier d'une machine à sous, pour relancer le tirage. Et il a la même fonction, d'ailleurs. Tout ça exploiterait les biais, les faiblesses, entre guillemets, du cerveau des jeunes. Ça les placerait dans un état de FOMO perpétuel qui serait toxique. Et en ça, les procureurs ont parfaitement raison. Sauf que, pourquoi tu t'arrêtes aux jeunes ? On est tous concernés. La manière dont sont designés les réseaux sociaux et d'innombrables autres applis, évidemment, elle doit strictement rien au hasard. Tout y est calculé méticuleusement. Tout est scientifique. C'est scientifiquement qu'on nous piège, au mieux, sur une plateforme. Parce que, évidemment, après, cet engagement pourrait être revendu. Et ça n'a rien à voir avec les jeunes. Peut-être qu'ils y sont encore plus sensibles que les adultes, ok. Mais on est tous concernés, on doit tous se défendre contre la manipulation constante que nous imposent les réseaux sociaux pour nous garder, nous verrouiller, nous exploiter, finalement. Et Meta veut bien accroître les fonctions de contrôle parental. Tu sais, ils disent, ouais, on vous permet de mieux monitorer ce que font les enfants, tout ça. C'est très bien. Mais par contre, curieusement, il a jamais été question de virer le scroll infini, par exemple. Aucune application. Hein. Sur TikTok, c'est la même chose. On y passe des heures sans s'en rendre compte, parce que ça finit jamais. Est-ce que ce sera la même chose si, tout simplement, il fallait cliquer sur page suivante, toutes les 10 vidéos ? Ben certainement pas. Ce serait beaucoup plus simple de dire à un moment, ben ça suffit, stop, c'est bon, j'en ai vu 40, ça suffit quand même. Mais dis-toi qu'il le fera jamais, bien sûr, parce que c'est se tirer une balle dans le pied que de virer le scroll infini. Donc, c'est encore trop tôt, évidemment, pour dire ce que vont donner tous ces procès, tout ce truc-là, et surtout, à quoi ça va aboutir concrètement, hein, si c'est juste une grosse amende, ça a que peu d'intérêt. Les changements qui devraient s'imposer sur Meta, et les autres, mais bon, Meta en particulier, ça devrait être beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Ça devrait toucher au design même des applications.
Vas-y. Oui, pardon. Je pense, enfin, c'est indéniable, c'est indiscutable ce que tu dis, et je pense qu'on peut tous légitimement tomber d'accord concernant la démarche juridique là qui a lieu et qui fait l'objet de l'actualité. Je crois que ça fait spécifiquement écho au fait que Frances Haugen et il y a eu des études derrière, des enquêtes qui a révélé que l'entreprise Facebook Meta savait que Instagram était toxique pour les adolescents, mais en gros limitait les risques pour le public. Donc quelque part il y a vraiment cet élément qui semble avoir été identifié, que ces entreprises savent éperdument que c'est le cas pour les jeunes. On sait pas encore, même si évidemment toi et moi on le sait et qu'on a de bonnes raisons de penser que c'est le cas aussi pour les adultes et pas que pour les adolescents et les enfants, mais en tout cas il y a eu spécifiquement des travaux qui ont été menés en interne chez Meta qui ont conclu au fait que c'était toxique pour eux et qu'il n'y a pas eu d'action derrière. Si je dis pas de bêtises, c'est spécifiquement ça, mais je suis d'accord avec toi sur la vision d'ensemble qui vise à dire que tous autant qu'on est, on est victime de ces mêmes comportements abusifs.
Oui, complètement. Non, non, mais c'est ça. Oui, mais t'as raison. C'est-à-dire, comme c'est parti, au mieux, on aura une révision pour le jeune public, en fait. Pour qu'il fasse effectivement quelque chose pour les jeunes.
Ouais.
Même si en réalité, je pense qu'il faudra interdire les dark patterns pour tout le monde, pour tous les publics. En fait, il faudra interdire le marketing cognitif parce que on est forcément en état de faiblesse vis-à-vis du marketing cognitif. Parce qu'on a tous le même cerveau et qu'on contrôle pas ça, tu vois. Et c'est pas seulement sur Facebook, bien sûr, hein, c'est partout. Ce serait une question de souveraineté cognitive. Toutes les grosses boîtes exploitent comment fonctionne notre cerveau et nous, on n'y peut rien. On ne contrôle pas comment il fonctionne notre cerveau. On dit souvent qu'on a des biais cognitifs, des biais entre guillemets. Mais en fait, ce n'est pas des biais vraiment parce que c'est son fonctionnement normal. Les biais cognitifs, en fait, ce sont des fonctions normales que l'évolution nous a données et qui sont juste plus ou moins efficaces selon le contexte. Biais, ça sonne comme un défaut. Mais ce n'est pas un défaut. C'est juste qu'une boîte exploite sciemment la manière dont notre cerveau fonctionne. Et quand elle exploite les biais cognitifs, elle n'exploite pas un défaut. C'est pas notre faute. Ouais. Je veux dire, c'est pas parce qu'on n'est pas assez malin, tu vois. Non,
moi, je serais gêné.
C'est qu'elle hack le fonctionnement normal de notre cerveau. Et du coup, ça s'apparente à une manipulation.
Mais c'est pas nouveau que une démarche de publicitaire communicant et d'une démarche marketing exploite les biais cognitifs. Je reprends un exemple tout bête qui est pas lié à la technologie, mais le fait qu'on nous affiche des prix qui sont un centime inférieurs au prix cible pour qu'on ait l'impression qu'ils soient moins chers, ça quelque part ça appartient à cette grande famille des manipulations mentales pour le grand public. Et moi je trouverais ça problématique aussi qu'on aille jusqu'à réglementer ou interdire des comportements de ce type-là. Et pourtant, je ne peux pas m'en satisfaire, hein, je suis d'accord avec toi, mais j'irai même plus loin. Est-ce que demain, le grand public aurait envie qu'on l'empêche d'avoir accès au tiré pour rafraîchir, tu vois, ou le scroll infini, surtout maintenant qu'on y a goûté.
Ça change
c'est
rien.
Horrible.
Mais ça ne change rien du tout. Enfin, je veux dire, si tu interdis le scroll infini, qu'est-ce que ça change en fait? Je veux dire, tu peux toujours accéder au poste, tu peux toujours en voir autant que tu veux. Il suffit juste qu'à un moment donné, tu fasses, page suivante. Et c'est tout. Enfin, qu'est-ce que ça change? Fonctionnellement, ça ne change rien. La seule chose que ça change, c'est la perception et la manière dont le cerveau perçoit ce truc-là. Mais fonctionnellement, c'est pareil.
Ah, je comprends. Mais en tout cas, c'est un problème de santé publique avéré. Le périmètre n'est pas encore suffisamment bien défini. Là, en tout cas, il y a l'angle des jeunes et des adolescents qui est trouvé. Et je pense que de toute façon, c'est très, très bien qu'on travaille ce sujet-là et que ça passe par cette étape-là. Mais évidemment, c'est un travail de concert entre les entreprises privées, les gouvernements, probablement la société civile, le monde de l'éducation. Tout ça va devoir avancer dans le bon sens. Mais c'est une étape très importante qu'il fallait souligner. On en profite, Guillaume, pendant qu'on parle de Meta, et sauf à ce que tu veuilles compléter spécifiquement ce sujet, mais il faut qu'on parle un tout petit peu de Threads aussi.
Oui, disons que effectivement, on parle de ça. Je veux dire, il faut aussi préciser que c'est toujours un problème, tout ce qui se passe sur Facebook et quand on parle de Dark Patterns, tout ça, c'est des choses qui touchent tous les utilisateurs de Facebook. Il y en a beaucoup. En fait, on a l'impression que Facebook, c'est comme ça en train de partir. Pas vraiment en fait, puisqu'il a passé la barre des 3 milliards d'utilisateurs actifs. Il a une croissance qui est très lente, mais qui continue encore. Hein. Quant à Threads, je ne sais pas s'il capitalise sur les défections de feu Twitter, mais il est presque à 100 millions d'utilisateurs aussi. Donc ça fait pas mal.
Ouais, c'est quand même beaucoup finalement. Et on les imaginait peut-être moins en bonne santé que ça sur le nombre d'utilisateurs. Il faudra voir la dynamique au global de toute façon. Pendant qu'on parle de Threads, forcément, il faut qu'on regarde qui permet l'arrivée de Threads. Moi, j'ai vraiment l'intime conviction que ce qui se passe du côté de Twitter n'est pas étranger à ce succès d'une centaine de millions d'utilisateurs. Justement, on parle un peu de X, Guillaume.
Écoute, bien sûr, on est obligé. On est obligé.
Ah bah forcément.
X rajoute une fonctionnalité que personne n'a demandé, je suppose, mais bon, la visioconférence. Voilà, donc comme avec Skype,
direct.
Messenger, WhatsApp, Telegram, tout ça partout. C'est vous pouvez faire des appels vidéo avec les Xitters et sans avoir besoin de numéro de téléphone, hein, comme sur Skype, donc, par exemple. Pour l'instant, en tout cas, ne peuvent vous appeler que les gens que vous suivez ou qui sont dans votre carnet d'adresses. Vous pouvez pas appeler, vous pouvez appeler que des gens qui vous ont déjà envoyé au moins un message auparavant, un message privé. Et bien sûr, seuls les abonnés premium peuvent utiliser la fonctionnalité qui n'est pour le moment dispo que sur iOS. Ou qui va arriver sur Android et sur navigateur un petit peu, voilà, partout, j'imagine. Dans peu de temps, des visios sous X, C'est toujours bizarre de dire ça. Avec l'ambiance actuelle sur le réseau, je sais pas trop si c'est le rêve de quelqu'un, mis à part les scammers au crypto, hein, qui pourront s'essayer au démarchage téléphonique, ouais. Ça change. Mais on comprend bien que c'est un passage obligé pour atteindre le modèle de WeChat, hein, l'objectif ultime donc de la super app, qui définirait presque l'usage du numérique en Chine, hein, quand même, hein, donc truc ambitieux. Donc c'est vraiment difficile pour nous de concevoir à quel point WeChat est utilisé en Chine. Déjà, WeChat, c'est 1 milliard d'utilisateurs, et ils sont tous en Chine. Ou presque, hein, ce qui veut dire que virtuellement tous les Chinois l'utilisent. Pratiquement 100% de la population utilise WeChat. Et pour tout, pour tout. Pour le moment, X, il est à des années-lumière de WeChat en termes d'adoption, comme on vient de le dire, mais aussi en termes de fonctionnalité, et même en termes de business model d'ailleurs. WeChat, c'est un truc qui est devenu incroyable, mais qui a démarré comme une appli de messagerie texte, un clone d'IRC en fait, qui est devenu rapidement un clone de Skype. Puis il a commencé à héberger des applications, donc des apps, hein, des applications qui sont toutes gratuites. Et surtout, WeChat est un système de paiement aussi, un système de paiement que tout le monde utilise, à tel point que ne pas l'avoir, ça devient un véritable handicap. On peut payer avec tout, hein, enfin payer tout avec WeChat, hein, son taxi, son hôtel, son fleuriste, son resto. Les clochards en Chine ont un QR code pour recevoir leur aumône. C'est assez incroyable. Et bien sûr, tous les services ont des applis WeChat. Commander une pizza et payer dans la foulée, commander un jeu vidéo sur Alibaba, transférer de l'argent à un proche, faire un micro-paiement dans un free-to-play, tout ça, ça se fait sans quitter l'application, sans quitter WeChat. C'est un véritable univers, WeChat. D'ailleurs, en parlant de free-to-play, tout est gratuit sur WeChat, et sans aucune pub. Toutes les applis sont gratuites et il n'y a jamais de pub. Tencent, en fait, se paye sur les transactions qui se passent sur son réseau. Donc c'est pas du tout le même business model, et les Chinois se moquent de nous quand ils voient nos applications qui clignotent comme des sapins de Noël dans tous les sens, avec des bandeaux et des vidéos de tous les côtés. On mesure bien la distance, hein, qui sépare X actuellement de WeChat, et le nerf de la guerre, hein, et l'on le sait très bien, c'est le paiement. Ce qui fait ou non qu'une super app est une super app, c'est que justement, ben voilà, il y a du paiement, et là on a bien sûr des plans très ambitieux là-dessus.
Ouais, alors justement, détaillons, parce que Elon Musk a annoncé en interne l'ambition qu'il voulait pour X au sujet justement des paiements. Il veut plus que simplement le paiement, hein, justement. Il veut pouvoir tout simplement remplacer ta banque, Guillaume.
Oui. Alors déjà, il veut que X devienne concrètement une sorte de PayPal, hein, d'ici fin 2024. Donc d'ici un an, ça sera possible de transférer l'argent sur X à un autre exiteur. Mais ça va beaucoup plus loin en termes. C'est vrai que le plan, c'est que ce soit carrément ton compte en banque, sauf que t'as pas besoin de compte, hein. Tu pourras payer sur les sites compatibles, tu pourras recevoir de l'argent, en transférer, tu pourras rémunérer les autres exiteurs préférés. On pourra tout faire directement sur X sans avoir du tout de compte bancaire. Ça deviendra ta banque et il pourra même payer des intérêts sur ton compte X. Musk a dit, c'est ce qu'il a dit l'an dernier. Bon, évidemment, c'est ce qu'il a dit l'an dernier. On sait pas si. Mais bon, l'an dernier, il a dit qu'il voudrait que votre compte Twitter soit le plus rentable de tous les comptes. Donc, c'est un objectif qui n'est pas nouveau, parce qu'il a explicitement dit aussi que c'était ce qu'il envisageait pour PayPal à l'origine. Mais ça ne s'est jamais matérialisé. Parce que pour lui, PayPal, c'est un produit qui n'est qu'à moitié fini. C'est une ébauche dont plein de fonctionnalités prévues auraient été annulées, peut-être à cause de son rachat par eBay. Et dans sa tête, X reprend là où PayPal s'est arrêté pour aller jusqu'au bout de son objectif, c'est-à-dire devenir un écosystème financier complet, doublé d'un réseau social, d'une plateforme sur laquelle, du coup, bah, tout, absolument tout, pourrait se passer. Alors pour lui, le secteur bancaire est trop timoré, trop défiant envers l'innovation, et X veut égaler et dépasser WeChat. Et donc le début de la mutation, bah, ça arrivera en 2024, quand les fonctions de base de toute super app seront déployées, c'est-à-dire réseau social, bon, évidemment, la messagerie, les fonctions bancaires et la fonction de e-commerce. Et donc il y a une refonte de Twitter Shops qui arrive, hein, bien sûr, la Visio donc qui vient d'arriver, le système de paiement qui est prévu pour 2024. Et donc avec ça X va ressembler de plus en plus à une super app. Il lui manquera toujours quand même un App Store et un écosystème d'applications quand même. C'est pas rien à créer, hein, surtout quand on voit l'efficacité et la richesse de celui de WeChat, hein, de Tencent. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Alors l'objectif de Musk, il était connu, hein, voilà, les briques se posent petit à petit. Même si techniquement elle fonctionne correctement, en temps et en heure, hein, ce qui est toujours pas évident, on peut quand même se poser la question de qui veut d'une super app, en fait. Parce que déjà que tout fonctionne comme annoncé en temps et en heure, c'est déjà un challenge. Hein. Outre les ingénieurs qu'on imagine un petit peu sous pression, les pauvres, il y a toutes les régulations qui encadrent le secteur bancaire. Chaque nouvelle fonction doit recevoir le feu vert, c'est pas juste une question technique. Twitter a déjà dû enregistrer Twitter Payment LLC auprès du Trésor américain. Tout doit être validé. Et en fait, c'est juste pour les États-Unis, ça. Donc, après, il y a une autre question évidente, évidemment, c'est, hein, j'imagine. C'est, est-ce que vous avez envie que Twitter gère vos comptes? que X, j'ai un bon compte. Le réseau n'a pas un historique super reluisant en termes de fiabilité, ni de sécurité informatique, ni même de management. Alors bon, l'image de marque, c'est pas complètement ça. Et la question se pose encore plus dans le cadre d'une super app. Si tous les services, une multitude de transactions se passent sur X, et que X, ça veut dire que voilà, X va absolument tout savoir de vous. Tout. Parce que c'est vraiment le cas de WeChat, tout simplement. Est-ce qu'on a envie dans WeChat ? WeChat est utilisé par tous les Chinois, tout le temps, et en conséquence, WeChat et Tencent savent tout sur tout le monde. Ils ont une puissance phénoménale. Se faire suspendre de WeChat, c'est terrifiant. C'est Halloween n'importe quand. C'est non seulement un handicap, mais potentiellement c'est une catastrophe, parce que t'as plus accès à tes comptes. Tu peux plus rien payer, tu peux plus payer ton métro, tu peux pas payer ton loyer. Et il y a la couche supplémentaire, bien entendu, que le gouvernement chinois n'a qu'une porte à laquelle frapper pour savoir ce qu'il veut, sur qui il veut. Alors évidemment, ça va être un petit peu moins le cas aux États-Unis, hein, ce dernier point, encore que la police a accès aux données des grandes boîtes si elle le demande. Quel Européen a envie que le gouvernement US ait accès à toute sa vie sur X ? L'hypercentralisation, ça passe peut-être en Chine, culturellement, bon voilà, c'est pratique, je sais pas, mais je suis pas du tout sûr qu'on ait envie de voir ça en Occident. Donner un pouvoir qui est aussi monstrueux à une seule boîte, moi j'ai pas envie, et encore moins une boîte comme X, hein, franchement. Donc, même si X est un succès technique et devient une super app, le succès commercial, il est pas garanti. En plus, il faut une grosse masse critique pour que ça décolle vraiment. Et le fait que tout soit gratuit sur WeChat, ça aide beaucoup. Et là, bah, il semble que X, ça devienne un réseau qui soit de plus en plus payant en réalité. Parce qu'on a donc ce fameux premium, hein, Twitter X Premium, il y a donc ce fameux dollar symbolique hein, pour poster, et c'est pas fini. Donc si les fonctionnalités évoluées restent derrière des paywalls, comme c'est le cas pour la visio pour le moment, bah, ça va pas aider. Hein.
Super app qui va, hein, il l'a dit, jusqu'à envisager une fonctionnalité rencontre sur X.
Wow.
Donc, ce qui d'ailleurs me fait rire parce que des rencontres sur X, ça, là aussi c'est rigolo. Et une brique de plus qui peut être extrêmement convaincante ou pas. Et justement, Guillaume, il y a aussi du nouveau au niveau des abonnements justement à X.
Bah oui, parce que bon. D'ailleurs, c'est même terrible parce qu'à force, on n'a presque pitié pour lui. X veut tellement, il cherche tellement à trouver du fric qu'il en arrive à multiplier les déclinaisons de ses abonnements, alors même que la formule actuelle fait déjà pas tellement recette. Le X Premium, en août, avait moins d'un million de clients. Il y a plus de 500 millions d'utilisateurs actifs par mois, a priori sur X. Donc c'est pas non plus énorme, moins d'un million de clients, tu vois. Donc on imagine que l'abonnement X Premium Plus, à $16 par mois, risque de pas crever des plafonds non plus. Donc pour $16, vous avez quoi ? Bon, vous avez pas de pub du tout, ça c'est déjà heureusement, vous avez un accès complet à la suite d'outils de création, parce que sinon vous n'avez pas un accès complet, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un accès complet, sinon je sais pas exactement. Vous aurez un boost encore plus gros pour votre reach, pour votre donc visibilité sur les réponses que vous envoyez sur X, un bonus algorithmique qui sera donc encore plus important, hein, et qui va probablement exciter les propriétaires de quelques comptes bien nuisibles. Donc si vous n'avez pas les moyens, bah, y a un abonnement à $3 par mois aussi. Donc même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, X le prend quand même, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, cet abonnement à $3 par mois ne vous apporte rien, enfin pratiquement rien. Pas de réduction de pub, pas d'accès aux outils de création, pas de badge bleu, aucune certification d'aucune sorte. Mmh. Et simplement un petit bonus pour vos réponses dans l'algorithme, un petit boost de visibilité qu'il faudra quantifier, parce que c'est pas complètement évident. Mais peut-être que ça sera nécessaire pour exister sur le réseau, hein, on va savoir, sinon t'es complètement noyé, je sais pas. Bon, tout ça, bien sûr, c'est en plus du dollar annuel, que tu dois payer hein, pour poster. Hein, si t'es donc en
le dollar annuel, c'est dans certains pays et en test hein, pour l'instant.
Oui, Nouvelle-Zélande, Philippines, pour l'instant, c'est en test, effectivement. Donc on verra bien en 2024 hein, s'il faut un compte Titanium Black Alpha à $24 par mois pour pouvoir transférer des fonds à son streamer favori. Tu sais. La route vers WeChat, elle est encore très longue. Hein, et ça, de la rentabilité aussi. Hein.
C'est même culturellement parlant, tu l'as dessiné un petit peu dans ta comparaison et l'analogie avec WeChat, mais j'ai du mal à penser que en Occident, aux États-Unis, il y ait un désir d'avoir une super app effectivement. Mais bon, on verra. Alors, tu parlais des abonnements X Premium plus, je sais pas quoi. Il faut aussi mentionner que Meta veut aussi tirer son épingle du jeu. Il faudra débourser, c'était en rumeur, mais ça a été annoncé, 9,99€ par mois pour ne plus voir de publicité sur Facebook et sur Instagram. Alors, il faut y voir là aussi une manière de répondre à la nouvelle réglementation, notamment le DMA et le DSA dont on a évidemment déjà parlé. Et c'est une manière pour eux de permettre d'accéder à la plateforme sans la pub. En sachant que si vous ne payez pas, pour moi, c'était pas très clair, mais il semblerait que vous avez effectivement, encore une fois, toujours de la pub ciblée, évidemment. Mais il n'est pas toujours très clair de comment est-ce qu'on peut arriver à avoir de la publicité sans tracking, sans ciblage. Et a priori, c'était pas via des abonnements qu'on pouvait y accéder. Donc ça nécessitera clarification.
Moi, ce que j'ai compris, et d'ailleurs, il y a quelques réactions sur les réseaux sociaux qui m'inquiètent un petit peu, parce qu'en fait, rien ne change. C'est-à-dire que si vous ne payez pas pour Facebook, rien ne change. C'est-à-dire que vous avez Facebook avec de la pub ciblée, puis comme avant, en fait.
Exactement.
Et si vous payez, vous n'êtes pas ciblé, tout simplement. Donc,
exactement.
Vous n'avez pas de pub. Donc, plutôt cool, en fait. C'est juste une option supplémentaire, quoi, j'ai l'impression.
Tu sais que on parlait d'il y a des années, Guillaume, de dire et si demain Facebook était payant ? Tu sais, tu te rappelles ?
Mais il ne l'est pas.
Mais il ne l'est pas, bien sûr. Mais tu vois que c'est une étape qui, peut-être à l'époque, on n'aurait même pas envisagé, finalement, le fait d'avoir une version comme ça payante pour ne pas avoir la pub. Au passage, donc il faudra payer sur le web si vous voulez pas vous taper la commission d'Apple et de Google que Meta n'assumera pas. Et donc, ça passera à 12,99€ si vous faites avoir et que vous souscrivez sur l'app. Ce sera dispo en Union européenne et en Suisse. Et puis, il y a des précisions qui seront apportées, notamment avec les comptes supplémentaires, notamment pour les pros, etc. On verra ça en temps et en heure, mais ça avance aussi de ce côté-là. On continue et peut-être on finit, Guillaume, de parler de X, parce que finalement, on regarde tout ça avec un angle assez critique, mais on ne sait pas, peut-être que les résultats pourraient commencer à être bons, peut-être qu'il pourrait y avoir des signes qui nous montreraient que tout ça est une trajectoire qui retient l'intérêt des consommateurs et qui pourrait entreapercevoir un avenir glorieux pour X, non ?
L'avenir, tu sais, l'avenir, franchement, on ne sait pas, mais bon, c'est vrai que là, ça fait un an tout pile qu'Elon Musk a racheté Twitter. Bon, j'ai l'impression que ça en fait 5 ou 6, perso, mais voilà. Ouais, mais bon, tous les sites donc se fondent d'un petit bilan de circonstances, on va dire, d'un petit historique aussi, qu'on ne fera pas, parce que je n'ai pas envie de me souvenir. Mais bon, on peut quand même essayer de brosser un tableau de la situation financière de X. Hein. Musk voit un chemin vers une valuation de 250 milliards de dollars à l'horizon. L'horizon, il est un peu lointain quand même, hein. Parce que Musk le sait très bien, il estime sa propre société à 19 milliards de dollars actuellement. Soit assez loin des 44 milliards qu'il a payé pour l'acheter quand même. Hein. Et ça, comment on le sait ? On le sait parce que les employés ont reçu un bonus en part de la société et que ces parts sont évaluées à 45 dollars. Donc en multipliant par le nombre de parts, ça fait 19 milliards. Donc c'est pas brillant, bon c'est pour le moment. Alors qu'en est-il de la fréquentation, tout ça, effectivement ? Alors déjà, selon The Information, le site, le nombre d'utilisateurs actifs par jour aurait baissé de 3,7% à 245 millions. Bon, un autre chiffre de 225 millions circule aussi. Dans tous les cas, c'est au moins 15 millions de moins en un an. Pour la fréquentation mensuelle, j'ai mentionné 500 millions tout à l'heure. En fait, c'est Linda Iaccarino qui affirme que c'est même en hausse à 550 millions. Le souci, c'est qu'on n'a pas le même son de cloche selon les analyses de tiers. Donc Aptopia affirme que l'usage mobile de Twitter serait passé de 140 à 125 millions par jour, 121 millions par jour. Donc ça fait plus de 10% de baisse, hein, alors que l'usage des autres réseaux sociaux, lui, est en hausse. D'après Sensor Tower, la baisse du nombre de fréquentations quotidiennes sera de 9%, quand même Facebook réussit à gagner 2%. En fait, X serait le seul réseau avoir vu un déclin du temps passé dessus, et on aurait passé 91 millions d'heures, soit 13% de moins en un an, alors que l'usage de Facebook a augmenté de 10%, et l'usage de Threads serait au passage d'ailleurs en baisse de 60%, toujours selon Sensor Tower. Bon, après l'euphorie des débuts, on va dire, voilà, il y a plein de gens qui sont allés voir, puis après évidemment ça se stabilise, donc on va voir plus tard. Si on prend les mesures de fréquentation du site Twitter.com, son trafic global aurait baissé de 14% et de 13% en France, ça c'est selon SimilarWeb. Bon, quoi qu'il en soit précisément, on peut raisonnablement se dire que X n'est pas en croissance explosive, quoi. Mais le plus gros problème, c'est plutôt les annonceurs, toujours, c'est la pub, hein, parce qu'ils dépensent beaucoup moins. Mais alors vraiment beaucoup moins, et ça vide les caisses. Donc selon Business Insider, la majorité des plus gros acheteurs de pub sur Twitter ont fermé les vannes. Sur 70 des plus gros annonceurs du monde, seuls 2 auraient acheté de la pub sur X le mois dernier. Donc le budget pub de X serait en baisse d'au moins 55% en un an. Mediapost mentionne que la part du budget pub de X dans le secteur complet est passée de 12 à 5% en un an. L'absence des grosses marques provoque un gros vide, qui d'ailleurs est, semble-t-il, comblé par des pubs d'une provenance un peu plus douteuse, qui sont nettement plus répandues qu'avant. Hein. Voilà, si vous voyez des trucs qui ressemblent à des escroqueries, ben, bon, c'est un petit peu pour ça aussi. Quant aux souscriptions, ça doit représenter dans les 120 millions de dollars de recettes, hein, ce qui est ben, évidemment très modeste. C'est une estimation qu'on doit à Travis Brown. Et à côté de ça, X vit toujours à crédit, puisqu'il y a toujours 1,5 milliard d'intérêts à payer par an. Bon, les 7 banques qui ont prêté collectivement 13 milliards de dollars pour leur achat hein, vont se résigner à perdre de l'argent, au moins 15% du montant, ce qui fait quand même 2 milliards de dollars. Voilà, à s'asseoir dessus, ça fait mal, ça pique. Elon a regretté d'avoir acheté Twitter, hein, donc il semble vouloir aller de l'avant. Il le mentionne plus, on ne sait pas s'il le regrette toujours, en tout cas, clairement, il a des projets, il regarde l'avenir, il place tous ses espoirs dans ce projet de super app. Au moins, c'est une ligne relativement claire dans ce sens, et c'est cohérent, ça change un peu. Où en seront les finances du X quand le système de paiement sera mis en œuvre? Est-ce que la fonction banque sera un relais de croissance pour X? C'est pas impossible, après tout. Elon va-t-il nous refaire une PayPal en mieux? Pourquoi pas? Ça reste possible. Moi, j'ai des doutes sur les concepts de super app, que j'utiliserai jamais sauf avec un pistolet sur la tempe. Mais, parce que ça me
terrifie. Même comme ça, tu l'utiliseras pas.
Mais bon, voilà, c'est peut-être juste moi. Tu vois, je veux dire, a priori, X pourrait devenir un simili WeChat, évidemment, pourquoi pas. Bon, là, tout dernièrement, ça vient de tomber, j'ai pas eu trop le temps de regarder, mais X, apparemment, va faire en sorte d'essayer de dissuader les gens de poster de la désinformation en coupant la monétisation. Si jamais ils sont flagués, pour, enfin, s'ils ont des community notes, mais après... Bon,
disons, la rémunération ne passe plus si jamais les posts que tu fais font l'objet de commentaires. De community
voilà,
notes.
Sauf que le problème, c'est que les community notes, c'est pas toujours du debunk, c'est pas toujours du fact-checking. Et donc c'est très bordélique. Donc ça veut dire que ça mérite des précisions que pour l'instant on n'a pas, mais quand même X fait un pas, si tu veux, dans une direction ou dans une bonne direction qui sera la bonne quelque part, qui serait d'essayer de limiter quand même, voilà, de faire quelque chose d'actif pour limiter la désinformation. Comme d'habitude, c'est bordélique, on n'a pas les détails, on ne sait pas, tout le monde se pose des questions, mais bon, voilà, au fur et à mesure, peut-être que ça va s'arranger. Donc pour le moment, la situation elle est semi-catastrophique, hein, faut pas se le cacher. Mais l'avenir, on ne sait pas en réalité. Hein,
ouais,
on peut pas forcément non plus être sûr qu'ils partiront en faillite l'année prochaine. Pas du tout.
Ouais, ça sent quand même pas très bon. Je reprends les propos de Nicolas Lelouch de Numérama qui décrit Twitter ou X comme étant un mort-vivant. J'aime bien cette image des choses. C'est un mort-vivant qui a du poids et qui a une forme d'aura, mais un mort-vivant quand même. On va continuer avec quelques autres infos sur d'autres plateformes pour être complet dans notre veille de l'actutech, Guillaume, avec une somme pharaonique que Google paye annuellement. On le sait dans le cadre d'infos qui ont été communiquées dans le cadre du procès, mais Google paye une somme pharaonique pour être installé par défaut sur les appareils.
Oui, bah, de toute façon, on peut même donner quelques petites nouvelles de Google parce qu'on a eu des résultats financiers aussi. Donc,
profitons-en.
Bah voilà, quelques petites nouvelles de Google, voilà, comment ça va bien, hein, la santé, les enfants, tout ça. Bah écoute, ça va, on se maintient. Le business de la pub, ça connaît pas la crise. Hein. Il y a encore 44 milliards ce dernier trimestre, donc c'est une hausse de 11%. Ça fait dans les 165 milliards sur l'année quand même, hein, donc on se plaint pas. Bon, c'est pas facile tous les jours, tu vois, il y a des gens qui sont méchants. Ils médisent, ils posent tout un tas de questions pour te faire du mal, pour te faire mal voir, tu vois. Oui, chez Google, ils ont payé 26 milliards, quand même, à plein de gens. Apple, Firefox, Verizon, plein d'autres, hein, pour être le moteur de recherche par défaut.
Donc bon, 18 à Apple, je crois, non? C'est pas ça?
18 à Apple, exactement. C'est quand même...
C'est une somme.
Il se débrouille pas mal. Débrouille pas mal. Bon, après, il a beaucoup de poids aussi. Hein. Ouais. Mais bon, voilà, 26 milliards, bon, mais c'est pas du tout pour assassiner la concurrence, hein, pas du tout, on étouffe personne. Parce que c'est pour le consommateur, je veux dire, est-ce que c'est notre faute si on est les meilleurs? Ben oui, on se défonce pour ça. Nous, on est les meilleurs parce que voilà, on est les meilleurs, c'est tout, on travaille pour. On est les meilleurs pour les consommateurs, donc c'est normal qu'on soit le choix par défaut, tout le monde est content. Et regarde, 165 milliards d'années de chiffres, cette affaire, cette année-là, c'est pas mal. Bon, il y en a toujours pour dire que c'est pas très naturel de passer 16% de ton chiffre d'affaires et 29% de tes bénéfices par an dans des accords d'exclusivité. Voilà, je dis que ça fait disproportionné, que voilà, ça peut avoir des dégâts collatéraux. Ça reste à prouver, ça, hein. Ça reste à prouver. Non, un souci qu'on pouvait avoir, là, c'est l'arrivée fracassante de l'IA un petit peu partout. On est obligé de suivre, donc évidemment, on doit foutre de l'IA partout, comme Microsoft. Alors du coup, nous aussi, hein, chez Google, on a fait un moteur de recherche avec de l'IA, le SGE. C'est du boulot, hein, surtout pour que les pubs fassent bien la transition, parce que, bon, intelligent ou pas, les pubs, il va y en avoir, bien entendu, il n'y en aura pas moins, au contraire. Donc là, bah, ils sont dessus, ils font des pubs qui sont d'autant plus organiques, comme on dit, donc ça va le faire. Bon, pour ce qui est des autres divisions de Google, bah, ça roule aussi pépère, les pubs sur YouTube sont en croissance de 12% par rapport à l'an dernier, et Google Cloud croît de 22% à 8,4 milliards de dollars de recettes, et c'est très bien, parce que c'est vrai qu'à un moment, Google Cloud, bah, il vivotait un petit peu, tu vois, il est face à Azure et tout ça, et il avait du mal à se faire une place, et là je pense que ça y est, il est complètement parti. Donc franchement, s'il n'y avait pas ce procès, ce serait une bonne année là, hein.
Ce qui m'étonne, c'est quand tu es convaincu, et ils le sont probablement, qu'ils ont le meilleur moteur de recherche qui répond le mieux aux demandes, pourquoi est-ce que tu te sens obligé d'investir une telle somme pour être par défaut, tu vois? Ou alors, il faut encore plus donner de poids à la paresse intellectuelle des technophiles dont on a déjà parlé, je sais pas, il faut voir. En parlant d'analyse d'entreprise et de réseaux de services pour lesquels on n'arrive pas encore à savoir s'ils sont en état de mort définitive, vivant, en pleine forme ou en état de mort vivant, on se pose parfois la question de Snapchat, Guillaume, de Snap même, au sens large.
Ouais, c'est un peu moins la fête pour Snap, hein, voilà, c'est, y a un petit peu plus d'inquiétude, on continue de faire des pertes, hein, 368 millions ce trimestre, malgré 20% de licenciements en 2022, ouais, 20%. Pour autant, son chiffre d'affaires a quand même atteint 1,2 milliard, c'est-à-dire 5% de plus que l'an dernier, donc la pub sur Snap, en fait, ça devient un truc bah, qui est plus ou moins consolidé, hein, qui fonctionne bien, et donc qui pourrait devenir rentable. Ou pas, c'est pas encore très clair. Il y a pas mal de mouvements dans l'équipe dirigeante aussi, on est dans une période qui est moins tolérante avec les pertes récurrentes, donc économiquement parlant, que par le passé. Hein. Donc son nombre d'utilisateurs actifs, bah, il a quand même augmenté, il est passé à 406 millions. Donc Snap est en progrès, son action est plutôt à la hausse en ce moment, parce qu'il voilà, il poste quand même des résultats qui sont meilleurs que prévu, puisqu'il s'attendait à 1,1 milliard en fait, de chiffre d'affaires, donc pour une perte qui reste à peu près stable finalement d'une année sur l'autre. Cela dit, ça reste quand même fragile. Quand tu regardes le cours de l'action, elle a connu beaucoup de hauts et de bas, hein, donc elle a bien baissé en avril, elle est remontée en juillet pour se recasser la gueule en août, et on parle de variations entre 8 et presque 14 dollars quand même, donc il y a une amplitude vraiment importante. Là, on est quand même toujours dans un creux en réalité, mais la viabilité à long terme de Snap, disons que voilà, il n'est pas condamné, mais c'est pas encore complètement acquis, quoi, hein. Le futur reste encore un petit peu inquiétant pour Snap, comme pour nous tous.
J'ai l'impression qu'on se dit ça depuis des années, là encore.
Mais pour Snap,
bon. Pour Snap. Et puis parfois, de temps en temps, on dit « Ah, surprise, ils ont des bons résultats. » Puis bon, bah non, c'est pas top. Bon, écoute. Chat GPT, Guillaume, ouvrirait des nouveaux usages. Alors peut-être pas partagé de la plus grande proportion de ses utilisateurs, mais quand même pas si isolé que ça de personnes qui ont besoin de se confier, d'avoir des discussions un petit peu plus intimes.
Autre tendance qui peut effrayer aussi, effectivement, hein, pour Halloween, des gens qui parlent tout seuls dans la rue. Alors bon, je sais, il y en a plein qui parlent tout seuls dans la rue aujourd'hui, dans leur oreillette, tu vois. Bon, mais ils parlent dans leur oreillette. Demain, ils pourraient très bien parler à plus personne. Enfin, ils parleraient à leur ami imaginaire. On pourrait très bien, d'ailleurs, une amie imaginaire qui pourrait très bien avoir la voix de Scarlett Johansson, hein, comme dans le film, être sexy et mutine, voilà, juste ce qu'il faut. C'est le sens de l'histoire, parce qu'il semblerait plus... Bon, alors... Puisqu'il n'est pas fait tout, il n'est pas du tout fait pour ça, mais enfin quand même, il semblerait que ça arrive. Des gens commencent à discuter avec ChatGPT, donc c'est pas nouveau, mais ils le font de vive voix cette fois, et pendant des heures, potentiellement. Et ils développent des relations qui sont plus que professionnelles, on va dire. Alors je veux pas dire sexuelles, parce que ChatGPT, bah, c'est pas sans fort, hein, mais tout de même intime. On peut être intime sans sous-entendu, hein, enfin voyons, petit coquin. Donc on voit des journalistes témoigner du fait qu'ils se prennent à discuter avec ChatGPT de manière informelle, et beaucoup plus longtemps que prévu. On voit sur Reddit, on voit sur X aussi, que beaucoup, voilà, de plus en plus de gens incorporent le chatbot dans leur interaction sociale quotidienne, pour brainstormer, pour avoir des conseils, pour juste se confier ou discuter dans un embouteillage. On constate qu'il y a une proportion d'utilisateurs pour qui, en quelque sorte, la distance émotionnelle avec ChatGPT se réduit, alors même qu'il n'est pas du tout fait pour ce genre de choses, à la différence d'autres produits comme Replica, par exemple. Alors, est-ce que c'est intentionnel de la part d'OpenAI d'avoir à ce point humanisé ChatGPT, parce que la voix utilisée dans l'application, elle est assez convaincante, et elle humanise beaucoup le chatbot. À tel point que parfois même elle fait des trucs pas prévus, comme tousser, voire bafouiller. Et c'est marrant parce que C'est pas ChatGPT qui le fait en réalité. C'est le modèle de synthétiseur vocal qui est par-dessus, hein, qui a été entraîné sur des données qui contiennent aussi des éléments qui sont non-verbaux, comme des soupirs, de la toux, des des ah, et des éléments qui peuvent se retrouver synthétisés dans l'audio, alors même que le chatbot n'en a pas du tout conscience. En réalité, le chatbot ne sait pas ce qu'il dit, il sait juste ce qu'il écrit. Et quand il tousse, il n'en a pas conscience. Néanmoins, ces petites imperfections sont quand même remarquées et parfois, elles humanisent le bot. Le simple fait qu'il parle, d'ailleurs, de toute façon, l'humanise. Et bon, on a des signes avant-coureurs de ce que va donner le futur de notre société, vraisemblablement, hein, où des robots de conversation de compagnie seront ultra crédibles et monnaie courante. On a déjà des cas de cœur brisé quand les chatbots, par exemple ceux de Replica, ont été modifiés du jour au lendemain pour arrêter le roleplay sexuel. Bon, on a déjà vu quelques cas de gens qui s'attachent à des personnalités virtuelles, alors IA ou pas même, hein, des personnalités qui non seulement n'existent pas, mais qui en plus peuvent être modifiées ou éliminées du jour au lendemain par une boîte qui le décide ou qui fait faillite. On n'a quasi aucun contrôle finalement sur ces trucs, et pas forcément beaucoup plus sur les données d'ailleurs potentiellement sensibles qui transitent sur les serveurs quand tu commences à leur raconter toute ta vie. Donc comment la société va réagir, ça reste un inconnu total. La seule chose qu'on sait, c'est que ça arrive, et ça va arriver de toutes les manières possibles.
Et est-ce que ça serait pas une piste qui serait exploitée par Human, là, tu sais, l'entreprise qui promet de lancer un appareil complètement dingue à l'appui de OpenAI, etc. En sachant qu'au passage, ça devait être présenté mi-octobre, ce sera présenté a priori, enfin, il y aurait des présentations le 9 novembre. Moi, je mise sur le fait que le 9 novembre, il y aura une présentation, mais qu'on comprendra toujours pas bien ce que c'est. Pour autant, une des pistes pourrait être très bien d'avoir un casque avec des gros guillemets, hein, alors, j'espère que vous les voyez, que vous les entendez, mais autonome, qui vous permettrait de dialoguer et d'interagir avec ChatGPT.
On va parler du AI PIN en supplément, parce qu'on a, des infos magnifique. Dessus, même et si on n'a pas eu de présentation précise vraiment, on a eu que des bribes, mais on a des infos dessus. On parlera un petit peu de ça effectivement en supplément, alors, mais oui, c'est complètement l'objectif.
Abonnez-vous à Tech Café si c'est pas fait, si c'est le premier épisode que vous écoutez, abonnez-vous, vous voyez, il y a encore plein d'autres choses qui arrivent. On continue et on termine justement avec ces conversations par intelligence artificielle, Guillaume.
Mais oui, parce que il y a un truc, bon, alors, il y a Anderson Horowitz qui a fait une étude sur les 56 IA génératives les plus utilisées chaque mois. Donc à votre avis, c'est lesquelles? Bon, bah, facilement, ChatGPT premier, évidemment. Après, on a Bard, Po, Claude, voilà. Donc, on a Character AI, on a Hugging Face, on a Perplexity, un petit peu plus loin, on a des choses qui sont assez connues aussi, comme Runway, Leonardo, Eleven Labs, ou ChatPDF. Donc, c'est des noms qu'on connaît, qu'on s'attend à voir dans un top 50, c'est sûr, mais il y a plus intéressant, puisqu'il y a aussi Civit AI, qui est 7e. Donc, Eleven Labs, lui, il est 24e. Il y a aussi Chubb AI, qui est 30e. Il y a PornPen AI, qui est 42e. Et il y a DeepSwap, qui est 50e. Or, tous ces sites que j'ai utilisés sont utilisés, sont utilisés en partie ou en totalité pour générer du contenu sexuel. Civit AI, c'est un site qui héberge les modèles pour Stable Diffusion, dont beaucoup peuvent être utilisés pour des images non destinées à un public familial. Chubb AI, c'est comme Replica ou Character AI, mais c'est non censuré, donc c'est du chatbot coquin en grande partie. PornPen AI, c'est assez transparent ce que c'est, hein. Et puis DeepSwap, bah, c'est pour faire du deepfake, donc intervertir des visages ou générer ou des filles animées aussi, donc bon, voilà, il n'y a pas trop de doute. Et même Eleven Labs, il sert pas mal, en fait, à donner des voix à des chatbots locaux, souvent, dont certains pour du roleplay érotique. Donc ce top 50 représente un usage en ligne, et ça veut dire qu'il rate aussi totalement tous les usages locaux, tous les modèles qu'on fait tourner sur notre propre ordinateur, que ça soit pour Stable Diffusion ou pour les modèles de langage, même si c'est pas forcément des chiffres qui sont démentiellement élevés pour l'instant, quand même, on les rate. Donc ça veut dire qu'il y a encore plus d'utilisation pour des trucs coquins comme ça. Donc ce top, finalement, ce top 50 qui nous est offert par Anderson Horowitz, sans le faire exprès, met en évidence que, comme avec plein d'autres technologies, bah, le sexe fait partie intégrante des usages qui poussent l'IA générative. C'est un moteur et c'est indubitable, que ça nous plaise ou pas. Bon, d'ailleurs, est-ce que vous connaissez Riley Reid?
Non.
Bah, c'est une porn star, je connaissais pas non plus. Hein. Pour de vrai, juré.
Je te jure que je connaissais pas.
Non, mais moi non plus, je connaissais pas. En tout cas, Riley Reid, elle a tout compris, elle va lancer son propre site de création de chatbot bah, sexuel, bien sûr, et il y aura donc bientôt un chatbot officiel Riley Reid, et un autre, Lena The Plug. Oui, bah, Lena The Plug, bon, passons. Et elles seront sur clona.ai, et elles seront accompagnées bah, par une foule d'autres, si tout se passe bien, enfin si tout se passe comme Riley le souhaite. Parce qu'il faut dire que c'est une personnalité assez prisée des amateurs, hein, Riley, et puis elle a déjà produit, elle a déjà été reproduite plutôt sur des sites où on peut designer son propre chatbot, bah, y a déjà des gens qui donnent son identité. Je suis sûr que son visage, voilà, se fait, hein, tu vois, qu'on utilise ses vidéos ou son visage, qu'on manipule un petit peu comme on veut. Et finalement, on fait tout ça sans elle. Alors, quitte à avoir des doubles IA, bah, autant que ça soit les siens. Le père de Riley est programmeur et il se forme à l'IA de peur d'être remplacé. Et elle a dit que ça l'a inspiré pour créer Clona. Parce que l'IA arrive, elle est là pour rester, alors autant s'en saisir, elle exploite à son profit. On pourra donc discuter avec un chatbot d'elle qu'elle va contrôler, finalement, qu'elle pourra contrôler. Ça sera moins cher que Karine Marjorie, hein, je vous rassure. Donc l'industrie du sexe, elle est assez résiliente, hein, faut voir ça, mais l'IA va certainement avoir un impact important dessus aussi. Des images sont d'ores et déjà produites à la demande et à la volée, hein, par millions. Bientôt, ça sera des vidéos. Le deepfake, en attendant, vient en aide à des actrices virtuelles et qui commencent doucement à coloniser les plateformes de vidéos pour adultes. D'ici 5 ans, sur certaines plateformes, il y aura une bonne proportion des performeuses qui ne seront pas du tout réelles. Et c'est relativement logique, hein, finalement. Parce qu'il y a déjà des influenceuses synthétiques qui sont de plus en plus, enfin, qui ont de plus en plus de succès sur Instagram ou sur TikTok. Mmh. Il y a des streameuses en 3D dont on avait parlé. On avait parlé de Miko, par exemple, qui était une des premières, mais voilà, ce ne sera certainement pas la dernière. Donc Riley veut s'approprier les outils et l'utiliser de manière positive, finalement. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle-même est plutôt en fin de carrière et que finalement, passer de la vidéo à la production et à la gestion d'avatar, bah, ça lui permettra de se reconvertir tout en restant dans le milieu. Et c'est une création d'emploi, en réalité. C'est une création d'emploi dans un secteur qui est connexe, finalement, à celui qu'elle avait et qui n'existait pas il y a seulement 2 ans. Donc, dans le porno comme partout, l'IA va créer et détruire des choses, quoi. Et donc, voilà, ça va être intéressant à suivre et aussi un petit peu inquiétant.
Merci beaucoup, Guillaume, pour ton regard sur les évolutions des usages possibles. On va commencer à conclure cet épisode avec une micro-rubrique pourtant très intéressante, jeux vidéo, avec un nom dont on ne parle pas souvent dans Tech Café, mais c'est Star Citizen, qui est pour certains le plus grand scam de l'histoire du jeu vidéo. Pour d'autres, la promesse du meilleur jeu vidéo ever. Il faut peut-être que tu nous redises quelques mots de ce que c'est Star Citizen. Star Citizen, et pourquoi est-ce qu'on en touche un mot là dans cet épisode, Guillaume?
Bon, Star Citizen, on en touche un mot parce que c'était la CitizenCon il y a pas très longtemps, tout simplement, et que j'ai vu une vidéo du nouveau moteur, de l'évolution du moteur de Star Citizen, qui est donc le Star Engine. Et le Star Engine 4, il est quand même impressionnant. Faut quand même dire que c'est quand même une performance technique. Et il y a aussi des évolutions sur la connectivité, parce que Star Citizen, c'est une sorte d'univers énorme en ligne qui sera donc multijoueur, où tu pourras faire ta vie tout seul, où il y aura plein de possibilités de gameplay. Enfin, c'est un jeu comme un peu total, en fait, c'est-à-dire que c'est Starfield, mais presque Starfield au carré, quoi. Donc c'est un jeu qui est extrêmement ambitieux. Bon, il y a pour l'instant, si tu veux, il est toujours pas sorti, certes, mais donc il y a un jeu qui va sortir quand même bientôt. Alors, moi, ce qui m'a assez impressionné, finalement, c'est dans le Star Engine, c'est qu'ils ont quand même rajouté pas mal de trucs. Il y a une vidéo que je vous encourage à aller voir pour vous faire une idée de techniquement de ce que ça donne. C'est une vidéo de 24 minutes qui est un plan séquence qui se balade littéralement dans la galaxie, c'est-à-dire que tu passes dans... t'es dans une station spatiale, tu vois le barman avec les bouteilles à côté, puis après, ça dézoome. Tout est toujours magnifique. Et en réalité, ça passe dans des stations spatiales à des années-lumière, ça passe dans des géantes gazeuses où tu vois des animaux incroyables, ça repart sur une autre planète, ensuite ça va dans une nébuleuse, sur un astéroïde, tout ça est en temps réel et tout ça est complètement seamless. C'est vraiment très impressionnant quand même, il y a de la physique à toutes les échelles, si tu veux. Ils ont vraiment un moteur qui quand même, apparemment, tient vraiment la route. Donc, écoute, j'étais pas des masses, sur Star Citizen. Je me disais effectivement, comme toi, que ça avait l'air quand même un petit peu d'être une grosse arnaque. Mais techniquement parlant, quand tu vois tourner le Star Engine, tu te dis, ce serait quand même vraiment dommage qu'ils en fassent pas quelque chose.
Bah oui, c'est sûr.
Et bon, je pense que là, alors, donc, le jeu dont je parlais tout à l'heure, le jeu qui va sortir, vraisemblablement, c'est Squadron 42, qui est donc une espèce de sous-Star Citizen, enfin, c'est une sorte de partie de Star Citizen, on va dire, un truc beaucoup plus ramassé, quoi, beaucoup plus focalisé sur le shoot. Mais, du coup, si Squadron 42 sort effectivement et qu'il est fini, il y a plein de développeurs qui vont repasser sur Star Citizen, et j'espère effectivement, qu'ils feront mentir tous ces trucs. J'y ai pas acheté de vaisseau à 2000 dollars.
C'est vrai que c'est le modèle économique
sur
aussi,
Star Citizen. Ouais. Parce que ça, c'est vraiment honteux, hein, faut quand même le dire. Mais d'un autre côté, honnêtement, techniquement, il faut qu'il sorte à un moment donné parce que c'est trop dommage. Je pense qu'il y a un énorme potentiel. Avec un moteur comme ça, il y a quand même un énorme potentiel. Ce serait vraiment dommage que ça passe pas, qu'ils en fassent rien.
C'est vrai que si les transitions sont vraiment ce qui serait en expérience de jeu derrière, ça, il y aura un avant et un après.
C'est la promesse, et très honnêtement, ben c'est pas Starfield. Hein.
Oh oui, ça, je pense que d'ailleurs tu faisais une comparaison, la comparaison est très très vite limitée finalement, hein, parce qu'on est quand même sur deux approches très différentes. Oui, c'est l'espace, mais bon, c'est quand même assez différent. Qui arrivera en premier, Guillaume ? La super app à la sauce X ou Star Citizen ? Je veux des paris moi ce soir, Guillaume. Je laisse miser les auditeurs. Un ex-cadre de Sony qui s'inquiète un petit peu pour le futur du jeu vidéo.
Bon, c'est Sean Layden qui est en retraite hein, de chez Sony. Il a été président de Sony Interactive Entertainment. Et il continue de dire des trucs quand même. Alors déjà parce qu'il est invité à parler dans des conférences comme la Game Industry Biz. Puis parce qu'il est inquiet. Voilà. Sean, il est inquiet. Il est inquiet par la tournure que prend le secteur et le comportement de Microsoft n'y est pas étranger. Hein. Parce que Microsoft est devenu un ogre du jeu vidéo. C'est l'archétype de la consolidation. Il a des milliers d'employés, des studios par dizaines. Donc il a 13 licences qui pèsent chacune plus d'un milliard de dollars désormais. Et le souci pour Sean, c'est que la consolidation, ça peut nuire à la créativité. Donc quand on doit pondre un jeu voilà, qui est condamné finalement à faire plus d'un milliard de dollars, ben on a un poil la pression, hein. C'est pas très propice à prendre des risques tout ça.
Tu m'étonnes.
Donc Microsoft, c'est déjà une super concentration. Et lui, il redoute que ça donne des idées à d'autres barbares, comme il les appelle, comme Google, Apple ou Amazon, hein, qui ont un chéquier XXL pareil et qui pourraient avoir envie de faire ce genre de truc. Donc les jeux sont de plus en plus gros, de plus en plus chers, voilà, on fait toujours plus de jeux services aussi, pour les rentabiliser sur des longues périodes. Mais le souci, c'est que si on mise presque tout sur une énorme licence aussi, c'est qu'on passe complètement à côté de ceux à qui la licence ne dit rien. Et effectivement, hein, je veux dire, Call of Duty, c'est une licence à milliards, mais moi j'en ai rien à foutre. Et donc, tant pis pour eux, quoi. Donc ils s'inquiètent aussi de la préservation du jeu vidéo, comme moi, entre les jeux services, les connexions obligatoires, même pour le solo, ouais, les streaming, les services de streaming, le Game Pass, où on possède plus rien finalement, les jeux, même AAA, qui passent 100% des maths, comme Alan Wake, y a de quoi ça faire du souci. Donc c'est pas la dernière PlayStation 5 Slim qui va apaiser les inquiétudes, hein, puisqu'apparemment il faudrait une connexion internet pour pouvoir raccorder le lecteur Blu-ray externe. C'est magnifique. Donc c'est une absurdité totale, hein, je veux dire, et pourtant ce serait écrit sur la boîte, il faudrait une connexion pour appairer le lecteur et la console. Quoi rêver, quoi.
C'est avéré, et je trouve la presse spécialisée, alors je ne suis pas un spécialiste du jeu vidéo, mais extrêmement clémente avec ce problème, enfin avec cette situation, je le qualifie de problème. Je trouve que la presse trouve beaucoup d'excuses pour dire « Ah, oh, c'est pour des raisons de sécurité, c'est pour des raisons légales, c'est pour des... » Je suis très étonné de la bienveillance de la presse du jeu vidéo sur ce problème qui consiste à obligatoirement avoir une connexion Internet et faire une sorte de ping d'un mouchard pour l'utilisation d'un accessoire. Il y a d'ailleurs au passage un mouvement un peu bizarre chez Xbox qui rend incompatibles des accessoires tiers qui l'étaient avant. Donc là aussi, ça semble un petit peu curieux. Je pense qu'il y a un besoin pour Microsoft de mieux contrôler un petit peu ce qui se passe. N'y voyez pas une analyse profonde, mais juste une impression de ma part. Et justement, pour conclure aussi cette rubrique jeux vidéo, Guillaume, tu voulais parler un petit peu d'Xbox ?
Oui, bah, mais je veux dire, mais t'as complètement raison, hein, c'est un vrai problème, hein, cette histoire.
Je comprends
autant
pas
pour
les
Sony, d'ailleurs,
retours
que pour Microsoft,
très positifs.
Ça n'a, ça n'a aucun sens, je veux dire. Et c'est pas marrant, hein, parce que c'est déjà un problème maintenant, parce que si t'as pas de connexion Internet, tu peux pas jouer. Et ça commence à faire chier. Je veux dire, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de très bonne connexion Internet et qui ont envie de jouer quand même, et ça devient quasiment impossible, au sens large. Hein. Mais c'est surtout que dans 10 ans.
Ne serait-ce que les mises à jour.
Mais dans 10 ans, si le serveur qui est censé répondre quand tu branches le lecteur, il est débranché, et il sera débranché tôt ou tard, ce serveur. Hein, c'est une question de temps, il sera débranché tôt ou tard.
Magasins de jeux vidéo de sociétés comme Nintendo soient débranchés, ça veut dire que ça, ce sera débranché un jour, c'est sûr.
Non, mais tu vois, ce serveur-là, c'est genre, tout serveur qui répond à un service comme ça, ouais, il est débranché dans les 10 ans ou 15 ans, grand maximum. c'est sûr. Mais bon, voilà. Donc, quand ça arrivera, bah, tu pourras plus connecter ton lecteur. Ouais. Quoi. Tu pourras,
d'ici là, tu peux imaginer que la PlayStation aurait une mise à jour. Tu vois, je me fais l'avocat d'hier, mais tu peux imaginer que la PlayStation aurait une mise à jour pour autoriser. Nanana,
mais bon. Espérons-le. Mais bon, effectivement, c'est pas très sympa. Et bon, oui, effectivement, c'est un vrai problème pour la préservation du jeu vidéo. On en parlait. Effectivement, pour moi, c'est un vrai souci. Donc, très rapidement, Microsoft, effectivement, se réorganise complètement. Hein, la division Xbox Gaming, finalement, est complètement réorganisée. Et Phil Spencer s'en va. Non, il s'en va pas. Mais il s'en va du poste de boss de Xbox, puisqu'il devient boss carrément de Xbox, de la partie gaming, quoi, de Xbox Gaming. Et la présidente d'Xbox, c'est Sarah Bond, du coup, désormais, qui devient présidente.
C'est quoi la différence entre Xbox et Xbox Gaming ? Excuse-moi, je connais pas, mais pour moi, Xbox, ils font que du gaming, non ?
Oui, non, mais je veux dire, je pense que c'est toute la division avec le PC, tous les services annexes, etc.
Pardon.
Oui, oui, d'accord. C'est la gestion de... Bon, enfin, voilà, donc en gros, l'organigramme est complètement changé. Du coup, c'est Sarah Bond, effectivement, qu'on va voir, qui va devenir plus ou moins la figure aussi médiatique hein, de Xbox. Et Spencer, lui, sera probablement... il est un peu au-dessus, tout le monde a une promotion, plus ou moins. Mais on le verra probablement aussi beaucoup moins, donc il va progressivement se retirer, j'ai l'impression. Mmh. Et bon, voilà, globalement, l'Xbox, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Mais écoute, on va voir comment... Pour l'instant, il n'y a encore aucun jeu Activision qui est rentré dans le catalogue. Ce sera pour 2024. Donc on va voir comment ça impacte le cloud, probablement plutôt en bien, mais il va falloir qu'il le fasse suffisamment vite, quoi, donc on verra bien.
On surveille. En attendant, Guillaume, une fois n'est pas coutume, et les plus fidèles auditeurs vont avoir des rappels de ce qui se passait avant dans Tech Café, tu voulais partager à l'occasion d'Halloween, parce que c'est une très belle fête. Quelques petites recos, Guillaume.
Bah écoute, comme il se trouve qu'on enregistre pile poil le 31,
c'est vrai.
Que c'est pile poil le jour d'Halloween, est-ce qu'on ferait pas des petites recos flippantes?
Allons-y, on se fait plaisir. Des bonus, comme au bon vieux temps.
Et ouais, des bonus flippos. Moi j'en ai deux, hein, si vous voulez. J'en ai un qui est assez classique, on va dire, parce que c'est la chute de la maison Usher, qui est donc une nouveauté Netflix qui est sortie il n'y a pas très longtemps, évidemment, pour Halloween, et qu'apparemment tout le monde regarde, donc c'est pas vraiment extrêmement original, mais bon.
Je n'avais jamais entendu parler de ce truc, c'est marrant.
Ah ouais ? Non. Alors, la chute de la maison Usher, c'est le nom, c'est le titre d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe, et effectivement, clairement, les producteurs ont tout fait autour d'Edgar Allan Poe, puisqu'en fait, il y a énormément de références, de citations, voire carrément de blocs de dialogues qui ont été empruntés à des tas et des tas d'œuvres et de nouvelles d'Allan Poe. Donc pas du tout que La Maison Usher, qui est en fait une nouvelle qui est assez courte en réalité. On retrouve le corbeau, on retrouve énormément de choses. Et donc ce qui est intéressant, c'est que La Chute de La Maison Usher, donc c'est une réinterprétation complètement de cette nouvelle, mais qui raconte la crise des opioïdes aux États-Unis en vérité. Donc c'est vraiment la crise des opioïdes qui rencontre Edgar Allan Poe, quoi. Et donc l'histoire, elle est complètement romancée, à la fois celle de la crise des opioïdes et évidemment toutes les nouvelles qui sont, tout est complètement changé. Donc c'est vraiment ça raconte donc l'histoire en réalité d'une famille réelle, hein, puisque ça raconte l'histoire d'une famille qui donc contrôle une entreprise pharmaceutique qui commercialise un médicament, qui est le Ligodone, comme ils appellent ça dans la série, qui est un médicament qui en fait est dangereux, enfin est très addictif, mais voilà, tout le monde dit qu'elle l'est pas, etc. Donc ils font leur fortune là-dessus, et donc c'est très exactement l'histoire de la famille Slacker dans la réalité. Qui dirigeait Purdue et qui a commercialisé l'oxycontin, qui est donc en grande partie à l'origine de la crise des opioïdes actuelle, donc aux États-Unis. Et donc c'est vachement intéressant, c'est bien réalisé, hein, c'est assez agréable à voir. C'est effrayant sans non plus être atroce, mais enfin, c'est quand même un peu gore de temps en temps, donc c'est quand même vraiment pas mal. Donc j'ai bien aimé la chute de la maison Usher. Et j'ai un film aussi, si vous préférez les films, j'ai un film qui est un peu plus trash, beaucoup plus trash même. Encore, beaucoup plus trash, c'est X. Alors X, c'est un film qui date de 2022, c'est pas complètement un truc. Bon, c'est réalisé par T. West, c'est relativement... c'est pas très très connu. Et c'est le pitch le plus racoleur de la Terre, puisque c'est un slasher, donc un film gore, voilà, où les gens se font tuer au fur et à mesure, qui se passe pendant le tournage d'un film X dans les années 70, dans une ferme reculée aux États-Unis. Donc il y a, c'est racoleur au possible, puisque c'est du cul, du sang. Voilà, c'est magnifique. Et on pourrait ne pas en attendre grand-chose.
Non, c'est vrai.
Et en réalité, je trouve que c'est un bon film, parce qu'il aborde plein de thèmes. Il est très gore, mais il est aussi assez drôle, en réalité. Il aborde des thèmes qui sont malaisants. Et en fait, les choses les plus effrayantes et les plus malaisantes, c'est même pas le sang, la violence, en réalité. C'est des thèmes la libération des mœurs, la liberté, la liberté sexuelle, le féminisme aussi, et la sexualité des seniors. Et on s'y attend pas du tout. Donc c'est vraiment, vraiment assez marrant, je trouve, tout ça en s'amusant beaucoup avec les codes du genre. Donc c'est assez marrant, c'est interdit aux moins de 16 ans. Perso, je dirais que c'est même... C'est assez gore, enfin, c'est vraiment pas adulte. Du tout un divertissement familial, on va dire. Je vous ai prévenu. Hein.
on lancera pas ça en famille demain soir pour le jour férié. Ok, merci beaucoup Guillaume. Moi, je me suis prêté à l'exercice, mais tu vas voir que je vais pas être hyper original et je vais rebondir sur ce que j'ai déjà dit. Mais comme j'ai terminé The Last of Us, que je n'avais jamais fait et je l'ai fait dans sa version remasterisée sur PlayStation 5, qui est vraiment très agréable. Les retours haptiques sont décidément le truc qui, moi, me plaît le plus. Il paraît que le Spider-Man 2, d'ailleurs, sur PlayStation 5 est bluffant aussi là-dessus. J'aurais très envie de tester. Mais en tout cas, j'ai été embarqué par l'histoire. Alors, avec des années de retard, comme quoi c'est possible aussi. J'ai dans mon plan d'action de Last of Us 2, que je ferai, mais je ne le ferai pas de sitôt. J'ai d'autres choses à faire avant. Je suis juste toujours autant captivé par les environnements de zombies. Et là, ça a été assez bien réinventé avec un axe champignonesque, mais surtout, évidemment, vous le savez, ce qui est le plus marquant, c'est l'histoire. Et donc, je me suis lancé dans la foulée, et pour le coup, on s'est lancé à deux, dans le visionnage de la série The Last of Us, que je n'avais toujours pas vue, parce que je voulais faire le jeu vidéo avant. Et les personnes qui vous disent « c'est la même chose, regarde la série au lieu de faire le jeu », je suis pas d'accord. Pour moi, il faut vraiment faire le jeu et ensuite regarder la série qui vous permet de revisionner des choses qui complètent quelque part l'histoire du jeu vidéo. Moi, je vous fais vraiment la reco. Faites le jeu vidéo avec une expérience sympa et enchaînez avec la série. Comme ça, vous allez profiter et découvrir des nouvelles choses. Et au passage, deuxième recommandation, peut-être un peu moins connue, c'est une série de 2022 aussi qui s'appelle The Watcher et qui est une série qui décrit l'arrivée d'une famille dans une banlieue qui a acheté une jolie maison, mais qui commence à avoir terriblement peur parce qu'ils sont observés. Et ils savent pas par qui, donc c'est une véritable paranoïa qui s'enchaîne. Ils ont des courriers qui décrit très précisément qui ils sont, ce qu'ils font dans la vie, qui explique que c'est quelqu'un qui une personne qui surveille cette maison depuis plusieurs générations. Ça permet évidemment de tirer le fil sur plusieurs histoires des habitants de cette maison avant cette famille. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est de savoir que c'est basé, évidemment au départ, sur une histoire vraie. Il y a un épisode de Distorsion qui a décrit cette histoire, l'histoire de la famille Brodus, qui aux États-Unis donc a acheté une maison. Et vraiment, cette famille a eu notamment des courriers de corbeaux qui font froid dans le dos. Et honnêtement, la série est très bien foutue. Alors c'est très bien, c'est très romancé derrière. Hein, c'est juste le prétexte de l'histoire réelle qui est exploité avec une fiction. Mais c'est vraiment bien fichu. Ça se regarde très bien. C'est 7 épisodes d'environ une heure. Et je pense que si jamais vous avez consulté ce que Guillaume vous a partagé et que vous vouliez découvrir encore un nouveau contenu, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à The Watcher. Je sais pas si tu connaissais, toi, Guillaume, The Watcher ou l'histoire des Brodus.
Ah si, ça, je crois que j'ai entendu l'épisode de Distorsion.
L'épisode de Distorsion, oui. Qui fait lui-même froid dans le dos, mais là, la série est, elle est effrayante. Merci beaucoup à toutes et à tous d'écouter Tech Café et puis de nous soutenir, que ce soit sur Patreon ou en laissant des avis sur les applications de podcast ou tout simplement en parlant autour de vous de Tech Café. C'est très précieux pour nous, comme je vous l'ai dit en intro, de se savoir écouter et de se savoir même critiquer et corriger. C'est de bonne guerre. En attendant quelques jours pour retrouver un autre épisode de Tech Café, notamment l'épisode supplément ou l'épisode hebdomadaire qui arrivera mardi prochain, je vous invite aussi à nous suivre et à nous interpeller, à nous retrouver à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Ah ben moi, je vais essayer de faire pour aux voisins pour avoir des billets et des bonbons, là.
Ah, très bonne idée. Oui, oui, très, très bien. Oui, ça marche en plus. Hein. Il faut bien les menacer. Il faut leur faire très, très peur. Merci, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. J'ai terminé la collecte de bonbons. J'ai beaucoup trop mangé de bonbons. J'ai trop de sucre dans le sang. Donc, je vais aller me reposer et faire du sport. En attendant, je vous souhaite une très belle continuation. Je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Ciao à tous.